Mais il y en a une que tu as oubliée, c'est que je ne floute pas les manifestants. Alors,
pardon ?
Je ne flouterai pas les manifestants.
Ah oui.
Ce qui pourrait avoir des conséquences. Alors, je le rajoute voilà, quand même, parce que c'est en général ce qui revient le plus, donc si on ne le dit pas, ça fait. C'est le fait de. On m'accuse souvent de ne pas flouter les visages des manifestants, ce qui peut faciliter le travail de la police et parfois de la justice. Donc Taranis, qu'est-ce que c'est ? Taranis, d'abord, c'est une SARL, donc c'est une société. Responsabilité limitée, donc c'est une entreprise de production d'images. Taranis, c'est le dieu celte du tonnerre, de l'orage du ciel et de la guerre, selon la mythologie, machin. Et pourquoi Taranis ? Parce qu'on cherchait un nom de société, donc on est plusieurs, je reviendrai sur ça tout à l'heure. On cherchait un nom de société qui soit un peu mythique, etc. Parce que la société, c'est ce qui chapeaute un peu le truc. Donc on cherchait un peu un dieu, machin. Et puis on s'intéressait à la mythologie celte, bah, parce qu'on est né à Rennes. Et c'était en fait le seul dieu celte d'une boîte de production dont le nom n'était pas déposé à l'INPI, ce qui est le truc pour avoir le droit de droit de marque de pouvoir, machin. Donc ça a fini comme ça, c'est pour la petite histoire. Donc on est 5 associés, il y en a surtout 2 qui représentent à eux seuls 80% du capital, le reste c'est des petits associés. Alors c'est pas compliqué de savoir à quel point on est indépendant, il suffit de voir, d'ailleurs c'est public, hein, dans les statuts de la société, on est tous nés au même endroit et la même année. Donc en fait on est tous des potes d'enfance qui avons monté notre société. Le capital de départ, il y en a un qui a apporté 3000 euros, moi j'ai apporté 5000 euros de matériel, etc. Donc c'était vraiment petit. Ça coûte super cher de monter une entreprise, de l'ouvrir, ça coûte de l'argent. Tous les ans, ça coûte de l'argent. Tous les trimestres, ça coûte de l'argent. Et c'est difficile à chiffrer parce que ça dépend de combien vous gagnez, combien vous faites de chiffre d'affaires. Mais moi je conseille aux gens de le faire parce que ça permet d'avoir une sacrée indépendance. Si on a fait ça, c'est qu'on avait juste pas envie d'être des stagiaires pendant 3 ans pour avoir. Obtenir le droit de peut-être un jour être en CDD, puis peut-être à 35 ans d'avoir un CDI dans une boîte qu'on n'aurait pas choisi, etc. Donc on a voulu le faire nous-mêmes. Ça veut dire à un moment qu'il faut accepter pendant 3 à 5 ans bah, de ne pas être payé. On pourrait se payer. Enfin, quand tu gagnes de l'argent et que tu es ton propre patron, tu peux choisir entre te verser un salaire ou acheter du matériel et continuer à travailler ou aller sur le terrain avec les sous, etc. Donc on a décidé de faire ce choix-là et certains sont partis entre-temps, donc ils ont laissé le truc se faire, etc. Ils sont toujours là, ils mettent un coup d'œil, machin. J'en ai rencontré un qui jouait de la guitare la dernière fois sur le marché de Noël de la ville de Strasbourg, donc chacun a suivi sa route, etc. Donc ça, c'est pour la team de base qui a ouvert la société en 2011. Alors, juste un truc que je voudrais corriger, c'est Rennes TV et Taranis, en fait, c'est la même société. Donc Taranis a été ouvert en 2011 et Rennes TV était la première marque qui a duré de 2011 à 2013. Donc on s'est d'abord concentré sur la ville de Rennes. L'idée principale, c'était le but de base, vraiment l'origine du modèle économique, c'était de faire un média local en vidéo. Alors il faut revenir quand même en 2011, aujourd'hui on parle de la 4K, etc. En 2011, tout le monde n'avait pas d'écran HD, quoi. Donc la 1080, c'était rare à la maison. Il y avait 40% des gens qui étaient équipés. Donc de publier des vidéos en Full HD, c'est la grande époque du 5D. Je ne sais pas si certains qui font de la vidéo voient, mais c'est les premières fois où on a fait des flous vraiment, où il y a un visage, derrière c'est tout flou. Enfin voilà, c'est une espèce de cinéma qui rentre comme ça dans le... qu'on a pu faire du journalisme avec du matériel de qualité cinéma pour un prix un petit peu inférieur à ce que ça coûtait avant. Donc on a voulu faire ça au niveau local et pas international, etc. Donc on s'est intéressé absolument à tout. J'ai fait beaucoup de campagnes électorales puisqu'il y a eu 2012, il y a eu les municipales, machin. Donc on a retransmis en direct pour la première fois les conseils municipaux de la ville de Rennes, qui nous a jamais payé. C'est sympa d'ailleurs. Donc voilà, on a essayé d'appliquer un modèle local de ce qui se faisait avec une technologie qui était plutôt pour les très grands médias. Donc on a fait des festivals du Kouign-Amann, on a fait les agriculteurs, enfin on a tous les sujets bateaux, mais on a essayé de les traiter un peu différemment. Ça c'est un truc que j'ai appris à cette époque-là, et franchement il faut vraiment le dire en tant que journaliste, ça peut faire bizarre que ce soit moi qui le dise, mais les sujets qu'on peut qualifier de merde marronnier, c'est pas forcément les moins intéressants, quoi. Les sujets où on traîne des pieds, on n'a pas envie d'y aller, on se lève le matin en disant putain, je vais voir des agriculteurs qui vont me parler de leurs chèvres toute la journée, je vais devoir rouler pendant 4 heures. Et en fait, c'est des sujets qui sont passionnants parce que c'est souvent des gens qui ont vraiment des trucs à dire parce qu'on va jamais les voir, en fait. Et j'ai découvert des trucs vraiment intéressants en faisant des sujets de merde, en fait. Au festival du Kouign-Amann, j'ai vraiment bien rigolé. Enfin, moi, j'aime pas forcément ça, puisque c'est une pâtisserie un peu traditionnelle, que tu pourras leur expliquer.
C'est pas compliqué, hein. C'est du beurre, du sucre et de la farine, voilà. En couches multiples. plutôt que plus que moins. Voilà, donc vous en mangez un et vous avez vos calories pour la semaine.
C'est simple, si vous en avez sur les doigts, vous en avez pour la journée, quoi. Voilà, donc c'est, ouais. Moi j'aime pas trop ça, mais en Bretagne c'est vraiment une institution, donc c'était super intéressant de voir les gens qui étaient passionnés par ça. Ils avaient un second degré énorme, etc. Ils se foutaient de leur propre gueule en disant oh, regarde mon magnifique Queen Yaman et tout machin. Et c'était, ils avaient des choses à défendre dans leur passion, et c'était vraiment intéressant. Donc ne pas négliger les sujets de merde, c'est un truc que j'ai appris en faisant des sujets de merde, en fait. Voilà. Le modèle économique, donc au départ, on pensait faire de la vidéo institutionnelle pour financer l'information. Donc on a tout de suite créé le média pour se faire connaître, pour justement en faisant plein de petits sujets, etc. Et l'idée, c'était de vendre des vidéos de promotion à la bibliothèque Les Champs Libres à Rennes. Donc c'est une espèce de grande institution locale, bibliothèque, justement de faire les lives du conseil municipal, essayer de grappiller un peu d'argent public, de subventions, voilà. Et ça n'a absolument pas marché. Et je crois qu'en un an et demi, en total, sur la production, on a dû faire 1 200 €, quoi. On a réussi à faire des petits coups parce que c'était tout début des drones, il n'y avait pas encore de loi, etc. Donc on avait filmé un cross avec des drones, c'était une première, machin. Donc mais c'était pas notre cœur de métier, et franchement, faire une vidéo qu'on appelle corporate, ça veut dire faire une vidéo de clip pour un média, pour une institution, etc., c'est vraiment chiant, en fait. Ça prend 3 semaines pour une vidéo qui va durer 2 minutes. Il faut travailler 15 fois le même détail. À la fin, vous n'en pouvez plus de la vidéo. Vous avez envie de jeter l'ordi par la fenêtre, quoi. Et c'est juste qu'on n'avait peut-être pas envie de le faire, en fait. Donc voilà, sur la méthode, je vais détailler après avec le matériel, ça a toujours été et tout de suite de coller au plus près aux technologies qui sont les plus rapides et les plus mobiles. Parce qu'en fait, rapidement, on se déplace tout le temps. On n'a jamais eu de bureau, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est le cœur de notre adaptation. Comme on est tous dispersés, au début, on était à Rennes, mais on n'était pas dans les mêmes apparts, etc. On n'a jamais eu vraiment de bureau, donc on s'est toujours déplacé. On a toujours eu des ordinateurs portables, des caméras, etc. Donc là, en fait, dans ce sac, il y a mon bureau de Taranis, en fait. Il y a absolument tout. C'est-à-dire, je peux le déployer partout. Je peux recharger mes batteries, je peux le mettre ici, je peux faire de cette table mon bureau, dans un TGV, dans un hôtel, etc. Et ça nous a rapidement permis d'être vachement polyvalents. Pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on a fait beaucoup de festivals les 2 premières années aussi. Donc les festivals en été, c'était pour faire de l'audience. Au départ, on pensait aussi naïvement qu'on allait pouvoir vendre les images qu'on tournait en bonne qualité aux artistes. Ça n'a pas marché non plus. Donc il y avait une volonté de pouvoir s'installer partout et de faire ce qu'on pouvait faire sans limite. Le journalisme à cette époque, donc on est en revient en 2011, fin 2011, début 2012, internet, les médias, ils pataugent. Les réseaux sociaux, c'est le début. Facebook, je crois, il n'y a pas encore de page. Donc c'est quand vous suivez un média, vous êtes ami avec un média. Enfin, c'est vraiment encore le bordel. Twitter, par contre, est beaucoup plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. En 2012, en 2011-2012, Twitter a eu une énorme importance dans la révolution en Iran, en 2009. Ça a été énormément utilisé en 2011, justement, pendant la révolution syrienne, la révolution libyenne, la révolution égyptienne, le cœur de l'information. On est arrivé à un moment, et c'est oublié aujourd'hui, mais où la plupart, parce qu'aujourd'hui, les gens s'en méfient, c'est moins fiable, on va dire, les réseaux sociaux, que ça pouvait l'être à l'époque. Il y avait plus de sources que de spam ou que de fausses informations. Mais à l'époque, on pouvait se retrouver avec un article du Monde ou de Libération qui était basé uniquement sur des sources de tweets. Enfin, il y avait, telle personne a tweeté ça, donc telle personne a tweeté machin. Et on avait les seules photos, les seules vidéos. Il y a la fameuse, je ne sais pas si vous en rappelez, mais il y a une vidéo où on voit des officiers de sécurité égyptiens qui chargent la foule sur des dromadaires avec des sabres. Et cette vidéo est vraiment impressionnante. Et elle est sortie sur Twitter. Et voilà, c'est... À cette époque-là, ce média était beaucoup plus important. Donc il y avait moins de méfiance avec les contenus qui peuvent venir des réseaux sociaux. Enfin, c'était un autre schéma. Ça a beaucoup changé depuis. Alors, sur le matériel, je vais un peu faire la démo. Alors, je vais faire circuler un... en plus, c'est d'actualité parce qu'il y a des policiers qui ont été condamnés. Alors, ça, c'est un morceau de grenade désencerclant. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait le travail ou pour ceux qui l'ont fait. Donc, en fait, une grenade désencerclante, c'est une barre d'explosifs comme ça, avec des petits flots, comme ça, qui explose. Il y a eu pas mal de débats, puisqu'il y a des gens qui ont été blessés, il y a des gens qui ont perdu des yeux, il y a un journaliste qui est encore un peu dans le coma aujourd'hui à cause de ça. Donc voilà, c'est. Après, alors l'outil principal, c'est la caméra. Alors, On en utilise deux modèles. Celui-là, c'est le nouveau. C'est, en gros, ça filme en 4K. Donc ça, c'est le nouveau 1080 d'aujourd'hui. Donc en fait, on voit qu'en 4-5 ans, la technologie qui était super moderne à l'époque est un peu devenue normale aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'il va faire pendant 5 ans. Enfin, dans 5 ans, ça sera le truc normal. Donc on a décidé d'y passer tout de suite. Voilà. Enfin, si vous avez vu des images en 4K, c'est quand même pas pareil qu'en 1080. Cette caméra, je la sors pas quand il y a des conditions qui sont difficiles. Parce que déjà, elle coûte cher et qu'en plus, elle est neuve, donc j'ai pas envie de la casser. Et donc, j'utilise une des vieilles caméras qu'on utilisait avant et qui est complètement scotchée, etc. Donc, elle est étanchéifiée. Voilà. Il y a deux GoPro. Donc, c'est pas la même utilisation. Alors, ça va sur le casque. Alors, la petite, c'est très bien deux jours. Et puis, non seulement c'est discret, et en plus, ça pèse pas très lourd. Il faut savoir qu'à partir du moment où on l'allume, on a une heure d'autonomie. Donc au bout d'une heure, elle est out. Si pareil, je vous donne un exemple typique sur une manif de la loi travail. Déjà, il y a les manifestations des lycéens le matin, puis il y a une autre manifestation à 11h, puis on a une troisième à 14h, etc. Une heure, c'est court, quoi. Alors ça peut se recharger avec des batteries. Donc, du coup, voilà, une fois qu'elle est déchargée dans le sac, on peut la remettre à recharger. En une demi-heure, elle est rechargée. Mais, voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, il en faut une deuxième, si on veut pouvoir filmer en continu. Donc celle-là, elle est un peu plus lourde, c'est la GoPro 4, je crois. Donc c'est comme la 5, pareil. Voilà. Et donc c'est un peu plus lourd, c'est un peu plus gros, c'est un peu plus voyant. Donc du coup, c'est pas terrible. Mais par contre, ça filme dans une meilleure qualité. Il faut savoir que la nuit, celle-là, ça sert à quelque chose. L'autre, bah, absolument rien. Enfin, vous verrez pas grand-chose. Donc il faut pouvoir... Allez, ça, c'est un truc important. Il faut pouvoir que tout ce qu'il y a dans le sac... soit chargeable sans être branché. Pourquoi ? Parce que sur les ZAD comme Notre-Dame, c'est moins vrai parce qu'on peut encore circuler. Et puis bon, l'histoire est un peu finie, mais à l'époque de Sivens, on pouvait être, c'était une vallée, donc on était bloqué par un espèce de blocus d'agriculteurs et de policiers. Donc pour rentrer à l'intérieur, c'était très difficile, mais on pouvait pas s'amuser à faire des allers-retours tous les soirs machin pour recharger nos batteries. Donc il fallait pouvoir avoir une autonomie de 5 à 6 jours en électricité pour pouvoir filmer, pour pouvoir utiliser l'ordinateur, etc. Ça, c'est une batterie de 20 000 mAh, ça permet de tenir pas mal. Et en fait, avec ça, je peux recharger tout ce qu'il y a dans ce sac. Donc, si vraiment je dois partir longtemps, je peux en prendre une deuxième de batterie, mais en gros, avec ça, je peux charger les batteries de ma caméra, et je peux la brancher là-dessus. Évidemment, la GoPro, pareil, elle se charge là-dessus aussi. Il y a encore charger la lampe de poche. Sur mon ordinateur, je peux pas le faire, mais maintenant, avec les nouveaux MacBook qui sont sortis, on peut le faire. C'est utiliser une batterie comme ça pour les charger. Donc, techniquement, il n'y a plus besoin de se brancher. Donc, une batterie très importante. Un disque dur. Alors, celui-là, il est un peu renforcé. Il flotte, on peut le jeter dans les murs, machin. Et pourquoi ? Parce que si à un moment, on se retrouve dans une situation de NAS, par exemple, de garde à vue, etc., c'est une situation extrême, mais on peut le jeter en fait. Et si à un moment on a quelqu'un qui est à l'extérieur et qui peut s'en aller, quelqu'un qui est à l'intérieur et qui est bloqué, on peut lui donner les images pour éviter que la police mais c'est une situation extrême, c'est général. Mais il flotte, donc c'est vachement ça. Des câbles, alors ils seront. Vous allez voir, il y a plein de trucs de protection parce qu'en fait il faut que le sac puisse être étanche à l'eau. Il faut pouvoir résister au froid, il faut pouvoir résister à la poussière, au gaz lacrymogène, au coup, machin, donc c'est un peu compliqué. Par exemple, une caméra, ça m'est arrivé dans la salle de Notre-Dame-de-Lande, n'importe quel type de caméra, et ça les gens ne savent pas, vous voyez les mécanismes qui font ça, c'est une huile en fait. Et ça c'est sur toutes les caméras modernes, tous les zooms, ce qui permet de faire le focus, les petits mécanismes, machin, etc., ils gèlent. Moins 1, moins 2 degrés. Donc là, par exemple, à partir du moment où, dès que vous voyez du blanc par terre, dès que vous voyez de la neige qui se forme sur les branches, etc., le sac, il est encore chaud quand vous sortez, mais au bout d'une heure, il a la température extérieure. Et en fait, bah, c'est fini, ça ne fonctionne plus. En fait. Vous ne pouvez plus faire le focus, vous ne pouvez plus zoomer. Et si vous faites la connerie de forcer, vous allez arracher le truc et c'est terminé, vous pouvez jeter la caméra. Voilà. Il y a aussi le problème de l'écran qui peut geler. Enfin, le froid... C'est en dessous de moins 2, moins 5 degrés, c'est ce qu'il y a de pire. C'est le pire ennemi. L'eau, ça passe encore. On a perdu beaucoup de matériel avec la flotte, mais il y a un micro qui rassure la caméra. Voilà. Parce que le micro de base de la caméra est vraiment pourri. Alors, pour les événements nocturnes, justement en déplacement, dans la forêt, etc., c'est pratique d'avoir la petite lunette pour s'éclairer. Sinon, il y a le modèle un peu plus gros. Alors ça, c'est pratique pour s'égarer. C'est vraiment puissant. Et c'est pratique pour s'égarer, mais ça sert surtout à éclairer pour la caméra. S'il y a quelque chose qui est loin, vous êtes dans la forêt, il n'y a pas de lumière. Avec une caméra comme ça, même de très bonne qualité, vous n'allez rien voir du tout. Là, on peut faire une espèce d'effet tunnel avec la lampe de poche. Et ça éclaire à 250 mètres. Donc à 250 mètres, on peut filmer. Je ne sais pas s'il y a un stylo où on peut écrire ce que... Non, mais si vous avez... j'espère qu'il n'y a pas d'avant de la DGSI dans la salle, sinon je vais encore me faire niquer, mais en gros, imaginons qu'il y a une rangée de policiers ici, donc là il y a deux camionnettes, voilà, j'ai des policiers. Il y a un certain nombre de trucs qu'on a pris avec le temps et qui peuvent servir. On va dire ici, 50 mètres. C'est comme au baseball. Ici, c'est 100 mètres. Ici, c'est 150 mètres. Voilà. Et là, c'est 200 mètres. Si on vous tire un flashball dessus, à partir de là, donc flashball, à partir d'ici, déjà, il va un peu dans tous les sens, et c'est fini, il vous fera playback. Quoi. Si on vous tire un LBD dessus, jusque-là, vous êtes un peu dans la merde. Donc ça fait, on va dire, 110 mètres. Donc, une fois que vous êtes dans cette zone, vous risquez de vous le prendre. Les grenades lacrymogènes qui sont tirées, enfin, tir tendu avec Cougar, qui font poc, et qui se dispersent en l'air, s'ils sont visés en tir tendu, c'est pareil. C'est à peu près, c'en est un peu moins, on va dire. Voilà. C'est ce qu'on appelle le Cougar. Voilà. Bon, les coups de matraque, tout ça, ça se fait sur la zone où sont les policiers. Quoi. Donc, là, voilà. Les grenades de désencerclement dans le bout que vous avez là, ils ont une différence importante. Quand un policier jette une grenade lacrymogène, il a le temps de mèche de la grenade, c'est 3 à 4 secondes. Donc il va pouvoir l'acheter moins en fait, elle va rouler, elle va mettre du temps. Ça fait, il la jette, on entend cling, c'est la douille qui s'en va, ça met 3 à 4 secondes. La grenade, dans un encerclement, c'est 1 seconde et demie à 2 secondes. C'est pour ça que ça va super vite. C'est-à-dire il la lâche et bam, elle pète tout de suite. Ça, c'est 50 mètres maximum. Et ça, c'est ce qui fait le plus de dégâts. Des trous de grenade dans un encerclement, j'en mets 5 dans le coin. Voilà. Et donc pourquoi c'est important? C'est que, en gros, la lampe de poche éclaire à 250 mètres. En gros, il y a une zone là, entre 100 et 150 mètres, et après, quoi. Vous vous êtes tranquille en fait. Quand vous filmez, si vous vous placez à cette distance de la police, a priori, tout ce qu'ils vont vous balancer dessus, ça ira, ça ne vous touchera pas, quoi. Et donc, il y a des fois, et ça nous arrive à de multiples reprises pendant le travail ou sur les aides, quand ça devient vraiment chaud, il y a un choix entre risquer sa vie et surtout risquer les images qu'on a déjà tournées ou qu'on n'a pas encore tournées, ou alors, au moment, prendre la décision de prendre le recul. Pour éviter, selon les armes qui sont utilisées, s'ils n'utilisent pas le LBD 40, etc., et là, on peut se rapprocher à 50 mètres, mais quand on voit que c'est le tir au pigeon, comme ça a pu être le cas, nuit debout parfois, etc., et ben, on est obligé de repousser cette zone. Donc la lampe de poche qui éclaire à 250 mètres la nuit, bah, c'est vraiment pratique, parce que du coup, quand on est dans le noir total, on peut se placer dans cette zone un peu tranquille de 100-150 mètres et continuer à filmer, alors que normalement, avec la luminosité qu'il y a, on ne voit rien. Quoi. Donc voilà, c'est juste pour faire le détail. Donc du coup, pour rebondir, ça je vais vous montrer la tête de ce coup. Son côté, je crois que c'est important. La ventoline, moi j'en prends pas, mais il y a des gens qui dans le gaz lacrymogène se mettent à étouffer. Et enfin, je sais pas, ça m'arrive de voir des gens en train d'étouffer. Enfin, non, l'instant, ça personne en danger, ça peut vraiment sauver des vies. Ça c'est pour le gaz lacrymogène aussi, c'est pour se rincer le nez. Ça c'est un gel arnica à froid. Je vais prendre un cobaye. Les frottes.
C'est du bruit.
Pour les coups, c'est absolument génial. Et pendant une demi-heure, vous ne sentez plus un coup de matraque. Après, ça viendra.
Vous pouvez y aller.
La trousse de secours, alors ça peut paraître un peu exagéré, etc. Mais il faut quand même savoir que cette trousse de secours, pendant la travail, elle s'est vidée une dizaine de fois, totalement. J'en ai eu pour 200 euros de remplacement. Je parle même pas des événements qu'il y a eu avant. Donc il y a 20 compresses. Voilà. Il y a de la bétadine, donc c'est le meilleur désinfectant qui existe. Alors attention, les gens sont allergiques parce que c'est de l'iode. Ça, c'est pour se laver les mains avec de la bétadine. Donc, ça. Ensuite, ça, on en met sur la compresse, on en met sur la plaie éventuelle. Ça peut venir de n'importe où, même des gens qui se cassent la gueule. Enfin, voilà, c'est du verre. On prend une deuxième compresse, on remet de la bétadine, on la fixe, et ensuite on prend un rouleau selon la taille du truc, quoi. Et on roule, machin. En ville, à Paris, bon, d'accord, ok, c'est pas très utile. Il y a même des médics dans les manifs qui sont là pour ça. Mais sur les aides comme Notre-Dame-des-Landes ou Sivens, quand il y a absolument zéro médecin, etc., et vous êtes bloqué pendant 5 à 6 jours, une plaie dans l'humidité, ça peut être vraiment très mauvais. Ça, c'est de l'éosine, c'est pour les plaies justement qui sont humides. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des plaies de merde, genre vous coupez un morceau de légumes en faisant à manger, puis vous faites une toute petite plaie, quand il y a une humidité et de la boue partout, en 3 jours, vous avez un trou et c'est infecté, enfin, ça se désinfecte pas. Et donc, voilà, c'est pour les reportages un peu hardcore. Je pensais ne pas m'en servir autant, mais cette trousse de secours, elle m'a vraiment sauvé la vie plusieurs fois. Quoi. Et à d'autres aussi. Et pourquoi est-ce qu'elle est aussi grosse? C'est qu'avant, j'en avais une autre, qui était plus petite, et je me suis pris une grenade de désencerclement à Nantes en 2014, et ça m'a fait 5 trous sur les jambes. Et j'avais de quoi en soigner 3 en fait. J'avais calculé pour les compresses pour en avoir pour 3. Et du coup, bah, je me suis retrouvé comme un con au milieu de la rue, sans avoir de quoi boucher les trous qui restaient. Quoi. Voilà. Une petite pochette d'échantillons, alors ça c'est pour tout et n'importe quoi. À l'époque, on s'en était servi pour échantillonner les grenades offensives qui ont été interdites depuis, celle qui avait tué Rémi Fraisse sur les aides de silence. Donc ça peut être pratique d'avoir de quoi prendre échantillon. Si vous avez quelqu'un qui est en train de claquer avec la ventoline, vous pouvez mettre ça au doigt aussi. À quel point est-ce que son cœur bat? Voilà. Ça c'est absolument dégueulasse, par contre, c'est pas vegan du tout d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui le sont, mais c'est comme un repas en fait. Quand vous êtes dans une nasse pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, quatre heures, cinq heures, ça vous donne de l'énergie pour une demi-journée. Et ça, en garde à vue, mon avocat il me l'a donné, leur ravioli de garde à vue, là ça se mange pas. Hein. Ça à côté, ça m'a vraiment sauvé, donc j'en ai toujours eu. Ça c'est une petite batterie. Alors, j'ai toujours le câble de mon téléphone, parce que ça, le téléphone, c'est un des outils principaux de journaliste. Mais du coup, voilà, ça et ça, plus ça, c'est 2 jours de batterie. Quoi. Donc normalement, ça devrait suffire. Voilà. Évidemment, j'ai mon passeport de la Fédération de Russie. Voilà. C'est une blague, hein, c'est un passeport. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah oui, alors pour... il est un peu usé, parce qu'il a beaucoup servi. C'est le décret du ministère de l'Intérieur qui rappelle aux policiers qu'ils ne bénéficient pas de protection particulière en matière de droit à l'image. Et comme ils ne croient jamais, et ben en fait, on s'est pointé avec le décret et à chaque fois on leur sort. Et ben voilà, c'est signé par le directeur de la police nationale. Donc voilà, il a beaucoup servi. Et voilà, il y a même des vidéos où le lit, il y a des policiers qui n'en croient pas leurs yeux. Ça, c'est un cabis de la société, c'est pour prouver que je suis bien le gérant de la société de production parce que comme je n'ai pas la carte de presse. Alors pourquoi je n'ai pas la carte de presse? Je n'ai pas la carte de presse parce que je suis le gérant de l'entreprise. À la seconde où je laisserai la gérance de l'entreprise à quelqu'un d'autre, je pourrais demander la carte de presse. Mais j'ai 60% des parts de ma société, c'est moi qui gère les comptes, c'est moi qui signe tout, c'est moi qui prends tous les risques. Mais il faudrait que je donne la gérance à quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens en fait. Donc du coup, je ne peux pas le faire en fait. Donc je n'ai pas la carte de presse. Mais ça fait 5 ans, techniquement j'y ai droit. 100% de mes revenus sont issus du journalisme. Voilà, donc je vais prendre avec le sac. Donc ça, c'est pour la loi travail et pour les manifs, donc un masque pour les flashballs, etc. Ça peut sauver un œil. Enfin, je sais pas si tout le monde a vu l'éclat qui est passé, mais quand il est projeté à 300 km/h, ça vous sauve un œil. Il y en a un aujourd'hui qui est passé en procès, enfin un policier. Pour avoir arraché avec quelqu'un. Le masque à gaz, vous les connaissez maintenant. C'est à la mode à Paris. Voilà. Ça, c'est pour les vraiment très très grosses manies. J'ai en plus sur le côté, comme ça, du sérum physiologique pour renseigner les yeux, etc.
Il y a autre chose que le masque à gaz aussi.
Pardon ?
Pour la technique traditionnelle qui marche encore. Couleur et les citrons.
Alors,
c'est
un
truc que
j'utilise
encore.
Au début, la première fois, au sommet de l'OTAN à Strasbourg, j'avais un espèce de masque à pollution. J'avais un masque à pollution et j'avais mis du vinaigre dessus, comme vous l'avez dit. Et je ne l'ai plus jamais refait parce que je me suis retrouvé à courir avec ça. Et courir, avoir les poumons grands ouverts, etc., avec du vinaigre.
Du jus de citron.
Ouais, parce que je me suis eu l'impression qu'on m'avait dissous la gorge. Quoi. Genre, je ne l'ai plus jamais fait. Voilà. Et le masque à gaz, je l'ai mis vraiment tard. À l'époque, j'utilisais juste ça, quoi, sans citron. Quoi. Genre, tant pis, au bout d'un moment, ça fait. Le gaz lacrymogène en fumée, c'est quand même un peu gérable. Quoi. Tant qu'il y a du vent, surtout en Bretagne. Mais c'est tant qu'on arrive à s'extirper d'un gros nuage, ça va encore. C'est beaucoup mieux, mais
tu
sais
que les clics, forcément, dans un masque à gaz.
Alors maintenant, ils font ça.
Même avant,
à l'époque,
ils arrêtaient directement.
D'accord. À l'OTAN, c'était un peu particulier. Il y avait 22 500 flics, je crois. C'était vraiment très, très différent. Et voilà. Dernier commentaire sur le casque. J'ai commencé à le mettre à toutes les manifs à Rennes et à Nantes en 2014. Et il faut avouer que certains collègues à moi qui étaient avec moi à l'université et qui, du coup, moi j'étais avec le casque télé et eux ils étaient avec des cagoules et des foulards, ils venaient sous de ma gueule en disant ouais, à quoi ça sert le casque, etc. Si je l'avais pas eu, je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler, quoi. Et au moins à 4 ou 5 reprises, quoi. Et le truc, je rigolais avec ça en venant, c'est que c'est pas forcément pour se protéger de la police que j'ai un casque. C'est pas parce qu'on tape dessus, c'est que les manifestants sont pas tous des lanceurs expérimentés, en fait. Et le gros problème, c'est que souvent, surtout dans ce genre de situation, ils ont très bien compris ça. Et du coup, le caillou, au lieu de le balancer là, ils le balancent de là. Mais comme ils sont pas assez près et qu'ils le lancent pas assez fort, nous qui sommes des fois situés dans cette zone-là, les cailloux, ils sont pour nous, en fait. Et non seulement c'est super dangereux parce qu'ils arrivent de loin et c'est des gros pavés de granit qu'il y a sur Paris, mais en plus, ils arrivent de derrière, donc on les voit pas arriver, quoi. Et ce casque-là, il m'a protégé 4 fois d'un pavé. Enfin, si vous prenez dans le crâne, c'est un trou direct, c'est fini, quoi, adieu. Et il y a un de mes collègues qui en a pas mis un au début de la loi travail à Paris en se moquant de nous. Il a même fait un gif en disant « Regardez, il y a les G.I. Joe qui débarquent en manif, parce qu'on avait tous nos casques. » Et ben, il a fait un petit tour à l'hôpital de la Riboisière pour une plaie de 7 cm au crâne à cause d'une bouteille en verre qui lui a claqué sur la tête. Et il est revenu au manif avec un casque. Voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique. Voilà.
Sur le matériel, là, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quand est-ce que tu utilises tel ou tel type de matériel? Par exemple, la GoPro.
Ouais. La GoPro, elle est en fait...
Pourquoi tu la mets déjà sur ton casque? Ouais. Et quand est-ce que tu t'en sers?
La GoPro, je l'utilise pour les manifs, pour la mettre sur le casque, comme étant une preuve. C'est une sécurité, en fait, dans le sens où on n'est pas tout le temps en train de filmer avec la caméra. Et la caméra, à un moment, quand on est... Donc, je ne sais pas si vous connaissez le système, mais quand on est au 24 mm, on voit un grand angle. Quand on est au 250 mm, c'est très petit, mais on voit super loin. En gros, c'est comme ça quand je zoome, je réduis la taille de mon angle, mais je vois de plus en plus loin. Donc, quand on est concentré sur un truc super loin, on voit, nous, pas ce qui se passe autour, mais la caméra non plus. Donc, si à un moment, il y a quelqu'un qui vient et qui nous donne un coup, un policier en civil ou n'importe quoi, un truc qui se passe... on n'en a pas l'image. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, pour prouver au tribunal qu'on s'est fait éclater la gueule, il faut en avoir la preuve, quoi. Donc, la GoPro, c'est une sécurité, quoi. Elle tourne sur la tête pour que, quand il se passe quelque chose, on en garde une preuve, on en garde une trace, quoi. Et ça a servi à de multiples reprises. Souvent, je me retrouve aussi dans une situation où c'est une scène que je filme moi-même avec ma caméra, mais dont le deuxième plan peut servir aussi. Après, dans d'autres situations, la GoPro, ça sert beaucoup. Quand il pleut à torrent et qu'on n'a pas envie de risquer une caméra à 3 000 €, ben, on utilise la GoPro pour filmer. Et dans les interviews ou dans les concerts ou dans les conférences, on peut s'en servir comme multicam. Ça veut dire qu'on peut la poser sur la table. Là, si je filmais ce qui est en train de se passer, j'aurais mis une GoPro au coin de la table ici, j'en aurais mis une autre là qui vise un peu la salle, et j'aurais quelqu'un là qui filmerait avec la caméra principale, ce qui me permet de passer d'une caméra à l'autre. En fait, la GoPro, c'est un peu une seconde caméra pas chère.
Voilà. D'accord. Donc quand vous montez, tu montes aussi avec des images de la GoPro.
En fait, la GoPro, la plupart du temps, les images ne sont pas vraiment utilisées. C'est plus quand vraiment, il s'est vraiment passé des trucs aussi. Des fois, on s'en sert pour faire un résumé vu de notre position. C'est ce qu'on appelle le FPV. Mmh. C'est le First Person View, ça vient du jeu vidéo. C'est la même chose quand vous voyez En fait, on remplace l'arme de Counter-Strike par la caméra. Et dans certaines manifs, c'est assez intéressant de voir comment nous, on travaille sur ces terres-là, quoi. Voilà. Et j'avais un dernier commentaire par rapport à l'usage du web par rapport à la télé. À l'époque, les vidéos qui étaient sur Internet, c'est moins le cas aujourd'hui, n'avaient pas la légitimité des vidéos qui sortaient à la télé. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation... c'est presque le contraire. Ça veut dire que la vidéo... comme par exemple hier soir, c'est un exemple typique, mais il y en a plein d'autres. Le teasing du reportage sur Poutine qui est passé sur France de hier soir, il a eu lieu sur Internet, il a eu lieu sur Facebook. Ils ont sorti des teasers pendant 3 jours, etc. Et ils ont appelé leurs téléspectateurs à venir voir une émission à la télé sur Internet. On est en vrai basculement. Ça veut dire que c'était presque l'inverse. À l'époque, on disait aux gens à la télé, on leur mettait des pubs, venez vous inscrire sur notre page Facebook, venez vous abonner à notre page YouTube. Ça, c'était plus du tout ça aujourd'hui, enfin, beaucoup moins qu'avant. Il y a un basculement. Moi, je pense que la télévision vit pas ses dernières heures, mais sa dernière décennie, et que d'ici 2020, il y a très peu de gens aujourd'hui qui font l'effort de regarder une émission en direct. Et finalement, le contenu, enfin, ce qui se voit après coup en VOD est beaucoup plus important. Le reportage, vous avez été 4 à le regarder hier soir, probablement que parce qu'il va buzzer dans les jours qui viennent, vous allez finir par être 15 à l'avoir vu. Mais donc beaucoup plus de gens l'auront vu après coup sur Internet qu'à la télé. C'est un grand changement parce que, je vais faire un ordre d'idée puis j'arrête là-dessus, mais une vidéo de 2 minutes vendue pour un média web de taille importante, c'est en approximativement, donc 2 minutes, c'est entre 500 et 600 euros pour le web. Pour la télévision, ça va être plutôt dans les 1000 à 1500 euros. Si c'est une vidéo normale, si c'est un truc hyper fou, typiquement le mec à Calais qui a braqué un fusil sur les migrants cet hiver, ça se vend beaucoup plus cher. Donc après, faut savoir négocier. Je veux juste revenir sur les critiques parce que comme ça c'est fait, et puis c'est des questions qu'on va pas me reposer après. Sur le fait d'être un militant d'extrême gauche, est-ce que vous trouvez que monsieur est un militant d'extrême gauche? Vous pouvez le dire, hein, c'est. Ah, ça a l'air sensible. Mais j'ai à peu près le même parcours. Ça m'a intéressé d'en discuter avant. J'ai été étudiant de sociologie, j'ai été diplômé de sociologie. Le thème de mon mémoire, c'est la comparaison des mouvements de l'utilisation d'Internet par les mouvements sociaux entre Rennes et Strasbourg, donc les deux facs dans lesquelles j'ai été. Et j'ai essayé de comparer un peu comment les deux étudiants de ces deux universités utilisaient Internet. Ensuite, j'ai décidé de cesser de m'intéresser activement à cette question en étant impliqué moi-même. C'est-à-dire, à cette époque-là, j'étais dans les AG, j'ai fait des coordinations nationales, j'étais à l'Union nationale lycéenne quand j'étais lycéen. Pas de commentaires, merci. Et voilà, c'est... Est-ce qu'à un moment, on considère que je suis un militant d'extrême gauche. Moi, ça me pose problème parce que je n'ai pas l'impression de donner mes idées. Je n'ai pas l'impression de dire ce que je pense. Dans mes commentaires, dans mes vidéos, il n'y a pas de commentaires. Je ne sais pas ce que je pense. Et pourtant, en ce moment, ça me gratte. Quoi. J'aimerais bien dire ce que je pense, mais je ne le dis pas. Je considère que ce n'est pas à moi de le faire. Les gens, ils voient nos images, ils se font leur propre idée. Et c'est vraiment intéressant parce que, au final. Sur la loi travail, il y a des policiers qui regardent nos images, bien sûr, et ils sont très contents de se voir sur les vidéos. Le meilleur, ça a quand même été quand on a fait les manifs de policiers au mois d'octobre. On a été les premiers à les interviewer, et j'en suis très fier. Le premier soir de leur manif, quand ils sont montés spontanément sur les Champs-Élysées, etc., la première interview, on a donc le policier avec son brassard, son gun, etc., et il parle pendant 8 minutes. Et BFM Télé, on a gardé 1h30, et moi, j'ai diffusé les 8 minutes de l'interview. Et sur RMC, il y a une flic de 38 ans qui a dit que c'était très bien, Taranis New, au moins donner la parole, machin. Et donc, ça les arrange bien qu'on soit là pour leur donner la parole. Là, je ne suis pas militant d'extrême gauche. Je ne suis pas militant pro-policier non plus, quoi. Donc, c'est un peu facile, en fait, de pointer ça. Et puis, moi, je trouve qu'on n'emmerde pas assez les gens d'extrême droite à la télévision. Alors, je trouve ça vachement gonflé de me traiter de militant d'extrême gauche, quoi. On rabâche pas Éric Zemmour à chaque fois qu'il se pointe à la télévision que c'est un militant d'extrême droite, pourtant lui c'est un peu assumé quoi. Donc il y a quand même une certaine dichotomie entre mon traitement politique et si j'étais militant d'extrême gauche, franchement je pense pas que ça se passerait comme ça. Je donnerais mon avis, je pense. Enfin, voilà. Concernant le fait que je sois un agent russe, alors mon code est Yuri, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? L'histoire, c'est qu'on vend des images à RT. Donc, et même pas, on les vend même pas à RT, on les vend à Rutpli, qui est leur agence de production qui est basée à Berlin.
Et explique peut-être
RT et Rutpli, c'est l'AFP russe. C'est le BBC russe, c'est le CNN russe. Ça veut dire, en gros, c'est la télé d'État. Ils défendent la politique de la Russie, machin, etc. Mais ils essayent de faire de l'information, machin. Bon. J'ai vendu mes images à CNN, à la BBC, à l'AFP et à Russia Today. La différence avec Russia Today et l'AFP, je vais vous la faire très simple. Russia Today, il paye en 15 à 20 jours. L'AFP, il paye en 60 à 90 jours. Voilà la différence. Pourquoi je travaille pour eux? pas parce qu'ils payent, quoi. Et qu'à un moment, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'attends mes paiements AFP de la manif du 1er octobre, de même de celle du 15 septembre des lycéens, et il y a encore des trucs de la loi travail qu'on va pas payer, quoi. Et ça, c'est tout le temps. Et là, aujourd'hui même, à l'heure auquel je parle, il y a l'agence Myop, qui est une des premières agences photo de France, qui vient de clasher ouvertement l'AFP via une espèce de coalition d'autres agences, etc., en disant qu'ils arrêtent de leur vendre des images tant qu'ils ne les payent pas. Ils doivent 500 000 euros aux photographes. C'est vraiment une sacrée histoire. Et donc, il y a aussi ça qu'il faut savoir, c'est l'argent, c'est le nerf de la guerre, quoi. Nous, on n'a vraiment rien. Notre chiffre d'affaires sur les premières années, c'était 20 à 30 000 euros. Cette année, on en a fait plus parce qu'il y a eu plein de trucs, mais on ne gagne pas d'argent, quoi. Enfin, moi, je me paye 500 à 800 balles par mois, et en ce moment, je me paye zéro, quoi. Donc, avec ce qui se passe là et tout, je ne peux pas travailler, donc je ne me paye pas, quoi. Et la grosse différence, c'est que voilà, moi, je vends des images sans commentaire. Ces images, je les publie sur mon média. Elles sont disponibles sur YouTube, on diffuse des clips de 30 minutes et on met à la vente des morceaux de ça qui durent 3 à 5 minutes. Je les mets à la vente à tout le monde, à l'AFP, à la BBC, à Rush Today, à Vice, à Rocket Run, etc. Parfois certains les achètent, parfois certains les achètent pas. Ce qu'ils font avec, c'est pas un problème. Si des gens veulent voir le cœur de l'information, le long reportage, il est chez nous, donc ils ont qu'à venir le voir. Donc de vendre aux Russes, ça me pose pas de problème. Évidemment qu'ils font la propagande, et si des gens sont assez cons pour la bouffer, bah, c'est leur problème. Après, les mêmes images servent à ce que l'AFP dise quelque chose d'autre, les mêmes images servent à ce que la BBC, et c'était très intéressant de voir comment, en achetant les mêmes images d'AFP et la BBC, ne disaient pas du tout la même chose sur ce qui se passe à Calais, alors que c'était exactement les mêmes images. Donc à un moment, tout le monde fait de la propagande. À un moment, il faut considérer que faut reconsidérer le terme de propagande. C'est un terme qui date de la guerre froide et qui est, voilà, c'est plus compliqué aujourd'hui. Internet, ça permet, je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un système de propagande, mais dans un système de fausse information. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, personne n'est assez stupide pour bouffer les trucs qui sont gros comme une maison, quoi. Genre, quand à un moment, là, sur Alep, il y a eu de la confusion, etc., mais il y a des trucs, les gens sont pas débiles, quoi. Ils ont compris, ils voient les trucs venir. Je trouve même qu'aujourd'hui, les gens sont moins réceptif à la propagande brute qui pouvait l'être au XXe siècle, parce que justement il y en a tellement que voilà. Mais par contre, il y a chacun voit l'actualité selon sa manière de se positionner. La Russie a sa lecture du monde, l'AFP a sa lecture du monde, les Anglais ont leur lecture du monde, les Américains ont une lecture du monde encore différente. Et là, en ce moment, on va peut-être bosser avec Al Jazeera et les Chinois. Alors là, ça va être encore pire. Et du coup, c'est très drôle parce que quand je bosse avec Vice, on me traite d'agent américain, et quand je bosse avec les Russes, on me traite d'agent russe. Alors putain, je suis un sacré agent double. Hein. Ça devient vraiment. Voilà. Donc c'est. Commentaires. En plus, on leur vend pas beaucoup d'images en ce moment parce que on leur vend plus d'images parce qu'ils se sont fait flinguer leur bande en Europe, donc ils peuvent plus payer les gens. Donc on leur vend plus parce que sinon on va se faire niquer. Voilà. Concernant le fait que je sois un agent de police. Comment dire. Je trouve que dans ce cas-là, ils sont un peu durs avec moi pour prouver que je suis un manifestant. J'en ai pris quand même. Voilà, je suis fiché S. J'ai fait 3 gardes à vue en un an. Ils m'ont tiré dessus. Ils m'ont empêché de travailler. Je sais pas quoi répondre à cette critique, en fait. Il y en a qui disent justement que je suis agent de police à cause du floutage. C'est plutôt ça qui est lié. Donc je vais y revenir à la fin. Sur le fait de faire du riot porn. Alors c'était très drôle parce qu'au début on n'en a jamais fait. Donc on...
Pareil, dis
alors le riot porn, c'est en gros d'utiliser des images de manif ou de violence et de mettre de la musique dessus avec des clips qui sont un peu serrés pour faire un espèce de clip, voilà, comme pourrait le faire un clip de rap, etc. Je crois que Kanye West a fait un truc comme ça, non, avec une espèce de révolution, machin, super stylisé, etc. Donc voilà, c'est un peu un style, ça s'appelle le riot porn. Et on n'en faisait pas et tout le monde nous disait que nos images étaient du riot porn à la base quand on avait juste des commentaires ou... quand on mettait pas de commentaires, etc. Donc on a fini par faire du riot porn, on a lancé un riot, donc on a fait 3-4 clips, je crois, j'en viens d'en faire un pour toute l'année 2016, et pour montrer la différence. Voilà, quand il y a de la musique, c'est ça, mais vous pouvez voir la différence avec le riot porn. Et ça n'a rien à voir, enfin, c'est pas du tout la même émotion. Quand on finit de voir un riot porn, on a le cœur qui bat, c'est quelque chose de... Voilà, c'est comme un teaser de Star Wars, un peu, en termes d'émotion. Mais ça n'a rien à voir avec quand on s'est tapé 30 minutes de manif, on a vu comment les gens se déplacent, comment ils se structurent, qu'est-ce qu'ils pensent. Je ne considère pas trop que c'est du riot porn. Sur le fait d'être un pseudo-journaliste juif, alors, tu n'as pas dit d'où ça venait, c'est Boris Lelay. C'est un personnage très connu. Alors déjà, je n'ai pas de religion, je précise, mes parents non plus, donc je ne peux même pas en avoir par affiliation, comme c'est le cas chez certaines religions. Donc je suis un pur laïcard, machin, né en Alsace, et qui, je suis arrivé, c'est une très bonne manière de montrer à quel point je suis très religieux. Je suis arrivé au CP, donc en Alsace, il n'y a pas la séparation d'église et d'État, je ne sais pas si vous comprenez, mais il y a concordat. Le concordat. Donc en gros, l'État paye les curés, les églises, et il y a des cours de religion à l'école. Et ma mère, naïvement, pensait au moment du remplissage de l'inscription au CP que pas de religion, il n'y avait pas de cage à cocher. En fait, elle n'a pas vu qu'il y avait une cage morale, donc c'était pour ceux qui n'avaient pas de religion. Donc elle n'a rien coché. Et l'Éducation nationale, dans sa bonté républicaine, n'est-ce pas, se disant rien coché, il doit être chrétien. Du coup, ils m'ont mis avec les cathos. Et moi, j'avais 6 ans quand même. Enfin, 6 ans, je ne sais pas si vous avez des petits frères, mais à 6 ans, on réfléchit quand même. Enfin, et je me suis retrouvé avec, dans la classe où tout le monde se tenait par la main, faisait des chants de petit Jésus, et ils m'ont fait colorier l'autre sur son crucifix comme ça, avec des machins coloristes. Je trouvais ça horrible, j'ai crié, j'étais c'est horrible, enfin, il meurt le mec et tout. Et je connaissais rien, je savais même pas ce que c'était, quoi. Et voilà, donc j'ai pas de religion, et je suis totalement tolérant avec toutes les formes de religion, etc. Et en fait, Boris Lelay est un. Il est en exil, je crois, d'ailleurs, au Japon. C'est un personnage breton très particulier, donc monarchiste breton, loyaliste, fille de grande famille, etc. Il est pour le retour de... donc c'est un des gros soutiens de l'extrême droite en Bretagne. C'est un des principaux mecs qui fait des vidéos sur YouTube. Et il me déteste viscéralement parce que j'ai filmé des manifestations d'extrême droite en Bretagne où il se faisait un petit peu bâcher par les antifascistes. Du coup, et donc son nouveau credo, c'est lui d'ailleurs qui le premier m'a traité d'agent russe. Et voilà, donc juif, c'est son nouveau truc. Alors je sais pas pourquoi, mais il s'est mis dans la tête que j'étais juif.
C'est une insulte pour lui, en fait.
Je trouve que c'est bizarre que les gens reviennent là-dessus, parce que déjà c'est un mec qui dit ça dans un article qui date de 2013, je crois, machin, qui a pété son petit câble, machin. Mais ça revient et on voit
pour une raison très simple, hein, c'est Gaspard Glanz sur Google.
Oui, c'est Python parmi les premiers, c'est vrai.
C'est très très bien.
Pas parce que la sphère d'extrême droite adore cet article. J'ai l'impression que c'est comme pseudo-journaliste islamiste, quoi. Tu vois, la religion, c'est revenu, et ça me sidère, mais bon, c'est un autre sujet. Mais la religion est redevenue quelque chose de très clivant, quoi. Enfin, à un moment, il dit oui, il est musulman, regarde-le, machin, tout très casé. Et comme j'en ai pas de religion, ça les emmerde, en fait. Ils m'en donnent une de force, quoi, tu vois, pour que ce soit machin. Non, je n'ai pas de religion. Et sur le floutage, après j'arrête, ça c'est comme le grand sujet. Donc il y a un petit souci par rapport à certains manifestants qui considèrent que c'est une faute de ne pas flouter les visages des manifestants, donc de permettre à la police de réaliser des identifications ou même de condamner des gens. Alors, première précision avant d'étaler le propos, j'ai vraiment fait attention à ça. D'ailleurs, c'est pas compliqué à comprendre, mon avocate est une des avocates qui participe à la Legal Team de Paris, etc. Donc elle connaît bien les dossiers. À Rennes, à Nantes, à Paris, jamais aucun manifestant n'a été condamné par la justice à partir de nos images. Ce n'est jamais arrivé. Donc, déjà, ça, c'est fait. Et si ça avait été arrivé, ça m'aurait vraiment fait chier. Par contre, nos images ont permis de prouver à la justice que certains manifestants n'étaient pas au lieu où ils devaient être au moment où la police a dit qu'ils avaient commis des infractions. Donc, on a permis, par contre, à des gens de se sortir de la merde sur certains trucs. Donc, ça, je trouve que la critique, déjà, est un petit peu dégueulasse. Ensuite, ce que ne voient pas les gens, et ça je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est qu'il y a un énorme travail qui est fait en montage. En fait, je supprime les plans qui mettent les gens en danger. Typiquement, un exemple très simple, vous avez quelqu'un qui va lancer un extincteur sur un policier, donc il arrive de dos, je filme, il arrive de dos, il lance un extincteur, il va se retourner, et au moment où il se retourne, on va voir son visage. Ces plans-là, en fait, ils sont coupés, mais ça, les gens ne le voient pas. Ça veut dire qu'ils vont voir le mec lancer l'extincteur, ils vont dire « ouais, on fait chier, on le reconnaît », mais non, le moment où on a calculé image par image, au moment où son visage se tourne, on le coupe, et il n'est pas dans le reportage. Et faites attention, vous verrez que ça arrive vraiment souvent. Après, sur des manifestations où il y a 10, 15, 20, 30 000 personnes, ça ne sert à rien de flouter, et ça, les gens n'ont pas compris, c'est que pourquoi est-ce que dans les manifestations à Rennes, à Nantes, à Lille, à Strasbourg, ils ont des hélicoptères au-dessus de la tête ? Et pas à Paris. Cette personne n'a jamais réfléchi à cette question. Ils ont des hélicoptères, ils ont des boules sous l'hélicoptère, s'ils utilisent ça sur les ZAD aussi. Ce truc-là, ça fait des zooms à 2 km de distance, c'est stabilisé, enfin, c'est militaire comme technologie. Ça leur permet de filmer des... Enfin, ils n'utilisent pas à Paris parce que le réseau de vidéosurveillance de Paris est un des meilleurs du monde. Et quand vous vous baladez à Paris, vous sortez jamais d'une caméra de surveillance. Vous êtes toujours dans le champ d'une caméra, quasiment en permanence. Vous prenez le métro, c'est encore pire, vous êtes au moins dans le champ de 2 caméras en permanence. Et donc, à un moment, à Paris, les images qui sortent au procès pour condamner des gens. Les images, c'est systématiquement des images de vidéosurveillance. Ils n'ont presque pas besoin de se servir de nos images pour savoir ce qui se passe, parce que déjà maintenant, ils ont quasiment tous des caméras sur leurs équipements. Je crois que c'est un flic sur trois qui en a, et c'est pratiquement tous à la fin de l'année. Ils utilisent leurs propres caméras, ils se mettent en hauteur, etc. Donc voilà, je ne tiendrai pas un discours aussi « bon, ça fait chier cette histoire » si on avait participé à condamner des gens. C'est jamais arrivé avant la loi travail, c'est pas arrivé pendant la loi travail, c'est toujours pas d'actualité aujourd'hui. Voilà, donc c'est une critique qu'on a pris en compte. Sur certains plans, on a fait encore plus attention. Sur d'autres plans, on a flouté parce qu'on n'avait pas le choix. Mais voilà, il n'y a pas de crime qui a été commis de notre part par rapport aux manifestants. Par rapport aux renseignements, si les manifestants considèrent qu'on participe à aider au renseignement de la police, s'il y en a dans la salle qui m'écoutent, j'ai envie de dire, regardez derrière vous les flics qui sont à 1m50 avec leurs oreillettes et qui écoutent tout ce que vous dites, quoi, la bande de faire chier ceux qui vous filment à 100 mètres de distance. Parce que c'est plus facile des fois de s'attaquer aux journalistes que de s'attaquer aux policiers. Du coup, il y a certains qui trouvent cette facilité aussi. Et voilà, la critique a été vraiment prise en compte, parce qu'on a pris plein la gueule aussi. Je considère encore que voilà, on a fait assez attention pour qu'aujourd'hui on ne vienne pas pouvoir nous dire voilà, vous avez participé à condamner cette personne. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Si vous avez
merci.
Des questions,
du coup, la parole est à la salle. Allez-y.
Il va falloir que tu parles un peu plus fort, surtout si vous enregistrez.
Ça serait de revenir sur les poursuites judiciaires à votre compte.
Ouais.
Et en fait, sur les contraintes que ça impose sur votre métier au quotidien.
Par exemple, là, on est vendredi. Demain, je dois pointer au commissariat de Strasbourg. Donc, concrètement, je dois prendre le train avant demain. Et j'espère qu'il n'y aura pas de tempête de neige ou machin. Parce que si je ne suis pas au commissariat de Strasbourg demain, je risque 75 000 euros d'amende et d'être emprisonné jusqu'à mon procès minimum. Quoi. Immédiatement. Voilà. Et sachant que j'ai aussi une fiche S, si je remets mon contrôle judiciaire, je ne leur donne pas 24 heures pour m'attraper par le col et me faire étoiter. Voilà, donc c'est un peu le voilà. Donc déjà, ça coûte des sous. Je dois faire des allers-retours. À un moment, je veux me déplacer loin ou y rester longtemps, je ne peux pas, parce que je dois faire des allers-retours. Et voilà. Donc concrètement, c'est un gros problème. Le deuxième, c'est que je ne peux pas me rendre dans le Pas-de-Calais. Et ça me fait vraiment chier, parce que tout le monde a l'air d'imaginer que la situation des migrants à Calais est réglée, n'est-ce pas ? Je vais laisser un grand silence, le temps de boire cette gorgée, il faut qu'on réfléchisse à cette grande histoire. Mais d'après ce que je sais, et enfin je ne sais pas, mais d'après ce qu'on m'a dit, le nombre de migrants qu'il y avait dans la jungle est à peu près égal aujourd'hui au nombre de migrants qui restent dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est juste qu'ils sont dispersés, quoi. Ils sont dans des fossés au bord des routes, ils sont dans des bois, ils sont cachés. Les bénévoles n'osent même pas aller les ravitailler en nourriture et en fringues alors qu'il fait super froid. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est l'enfer sur Terre. Désolé si on est dans la salle. Mais vraiment, en termes météorologiques, c'est pas cool. Les bénévoles n'osent pas y aller parce qu'ils ont peur que les flics les suivent et sachent où sont les migrants. Mais ces mecs, ils sont toujours là. Et ils vivent dans des conditions qui, au final, sont 50 fois pires qu'à l'époque de la jungle. À l'époque de la jungle, certes, les gens étaient empaquetés les uns sur les autres, mais il y avait des espèces de commerces. Ils pouvaient acheter à bouffer. Les bénévoles pouvaient avoir accès à eux, à leur offrir de machin. Là, ils sont cachés. Donc, c'est savoir que j'ai vécu cet hiver une scène assez incroyable. Mais on peut en rire, mais c'est vraiment... J'imagine, là, en ce moment... Les Soudanais qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est des mecs... le Soudan, elle a tapé sur Google et regardé le temps qu'il fait là-bas, quoi. Genre, des mecs qui ont grandi 30-40 ans au Soudan, qui sont à Calais. J'en ai vu cet hiver. Donc, dans la jungle, les mecs, en gros, sortaient de temps en temps de leur cabane pour aller tenter le coup sur l'autoroute. Donc, en gros, à ce moment-là, ils sortaient toujours avec un sac, ils étaient équipés. Donc, on reconnaissait tout de suite ceux qui sortaient juste pour aller acheter un truc et ceux qui sortaient pour aller faire la mission, quoi. Fin d'après-midi, machin. Et ce jour-là, il a neigé. Et il faisait froid et il s'est mis à neiger. Et on le connaissait, ça faisait un mois qu'on était sur la jungle, on le connaissait, etc. Il est sorti de sa tente et ses yeux se sont écarquillés, mais j'avais jamais vu ça, quoi. Genre, il s'est arrêté net, il y avait une voiture à côté avec de la neige qui s'était empilée sur le toit. Il a mis son doigt comme ça, il a regardé son doigt, il l'a mis sur sa bouche, il a regardé au ciel comme ça. Il s'est enfermé dans sa cabane, mais ses autres potes soudanais étaient morts de rire. Il n'est pas sorti pendant 4 jours. Il a permis de mettre dehors. Il s'est dit, c'est pas possible, c'est maudit ce soir-là, il ne faut pas que j'y aille, etc. C'est pas la peine. Et c'est là, on en rigole, mais ces mecs-là, ils avaient à ce moment-là une cabane qui était isolée du froid avec du matériel spécial. Ils avaient une couverture, ils avaient accès à de la nourriture. Aujourd'hui, ils sont dans un fossé au bord d'une route et même les bénévoles ne peuvent plus leur apporter un paquet de riz, quoi. Donc la situation dans le Nord-Pas-de-Calais n'est pas réglée. Mais moi, j'ai pas le droit d'aller voir ce qui se passe là-bas, j'ai pas le droit d'y mettre les pieds, et j'ai pas le droit de montrer cette situation. Alors, je l'investis depuis 4 ans, et ça me fait vraiment chier, quoi. Parce que là, tout le monde a l'impression que c'est réglé, voilà, c'est Noël, les réfugiés sont bien au chaud au CAO, il n'y a pas de problème, c'est une légende. Il y a des réfugiés de Brest jusqu'à Rotterdam, sur toute la côte atlantique. Il y a une situation similaire au Nord-Pas-de-Calais, au Havre, à Dieppe, à Boulogne-sur-Mer, à Saint-Malo, à Brest, à Lannion, etc. C'est partout le problème. Et voilà, donc la situation n'est pas finie, mais moi j'ai pas le droit de le dire. Voilà. J'ai pas compris, tu parles pas assez fort. Alors ils peuvent, mais du coup, ils ont pas envie d'y aller parce qu'ils ont peur de se retrouver en garde à vue et d'avoir une fichesse, donc il n'y en a aucun qui est volontaire. C'est une grande question. Dans quel cadre? Parce qu'on peut parler de la police à Calais, on peut parler de la police dans le cadre des manifs, et c'est pas pareil.
Là, je choisis. Alors, pourquoi pas travailler sur les deux, mais pourquoi pas déjà ce qui s'est passé avec la loi travail, nuit debout et...
Bah, sur Calais, il s'est passé un événement très drôle aussi et très intéressant. Alors, là, sociologiquement, c'était du bonheur. D'ailleurs, j'ai repensé à tous mes cours de sociologie. On a voulu. Ah, c'est très drôle. Hein. C'était pour l'évacuation de la jungle de Calais. On a voulu aller discrètement à Calais. C'est-à-dire, on savait qu'on était suivi. On couvrait la jungle depuis le début du mois de janvier. Et là, c'était à la fin du mois de février. On avait filmé le mec avec son fusil, machin. Donc, on savait qu'on était surveillé. Donc, on a voulu vraiment faire la mission, machin. Donc, on a loué une voiture sous une autre identité. On a fait 5 fois le tour en partant de Lille pour vérifier qu'on n'était pas suivi. Portable éteint, déchargé, mis dans des pochettes spéciales, machin. On arrive à Calais, on a roulé pendant une heure pour vérifier qu'on n'était pas suivi. Vraiment, mais on s'est fait chier, machin. Et on arrive à l'hôtel en mode bon, c'est bon. Là, ça fait 4 heures qu'on les balade. Ils nous ont pas trouvé. On arrive à l'hôtel, on se retrouve avec 4 compagnies de CRS sur le parking, les canons à eau, les motos, les machins. Et en fait, c'était l'hôtel où dormaient les CRS pour l'évacuation de la jungle de Calais. Et on était tout seul dans l'hôtel. Il y avait que eux. Et on arrive, mais c'était surnaturel. Et du coup, on l'a pris à la rigolade en mode sociologie, quoi. Et c'était, on arrivait le jeudi soir, on est resté jusqu'au lundi. Et le samedi, il y avait une relève. Et c'est véridique ce que je raconte. Hein. Je dis d'ailleurs une preuve, j'étais pas tout seul. Et le samedi soir, ils se sont bourrés la gueule parce qu'ils travaillaient pas. Et en gros, on était en train de faire le montage de ce qui s'était passé la journée. Et en gros, la journée, ils avaient évacué la jungle, et le soir, enfin une partie de la sud de la jungle, et le soir, ils ne travaillaient plus, donc c'était la fête. Et j'étais en train de faire mon montage, et il y a mon collègue qui sort de la chambre pour aller chercher un coca à l'accueil, quoi. Et il revient, mais blafard, et fait ne sors pas. Surtout ne sors pas, et tout. Du coup, je sors, et il y avait la pièce d'à côté était ouverte, il y avait des flics, il y avait du Malik Boukoko partout, alors ça m'a marqué. Et ils étaient pétés, quoi. Ils étaient en train de se détendre le samedi soir à l'hôtel, ils avaient, en civil, etc. Et là, je suis rentré dans la chambre, je me suis dit, il faut sortir, quoi. Sans caméra, mais il faut. Là, c'est le moment, on peut leur parler, c'est bon. C'est, quand vous avez un policier en uniforme, ça sert à rien de lui parler, il vous écoute même pas, c'est pire que des boulequets avec ce qu'il a dans les oreilles, il est fermé, voilà. Mais là, ils étaient en civil, ils étaient sous, donc c'était parfait, quoi. Et on est sorti, fumé une clope avec une compagnie de CRS, machin. Et il y en a qui c'était pas la peine de leur parler, mais il y en a c'était hyper intéressant. Sociologiquement, on en a discuté pendant 4 heures avec eux. Et il y avait un père de famille, ça m'a marqué, qui avait mon âge. Et il avait une femme et un gosse. Et il était là, ouais, moi j'ai plein de flingues chez moi, je vais au stand de tir, machin et tout. Et je disais, mais en fait, tu t'armes pourquoi? Enfin, t'as peur de quoi concrètement et tout? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, je suis protégé. Et ça m'avait marqué comme réflexion, ça. C'était une espèce de paranoïa qu'on retrouve un peu dans la police, en fait. Peut-être dans d'autres, mais je l'ai déjà senti. Ils ont peur de quelque chose d'assez irrationnel, en fait. Enfin, c'est pas concret. C'est vraiment, je me demandais, mais t'es armé, mais... Il m'expliquait qu'il avait des balles perforantes pour percer les portes de bagnole et tout machin. Je disais, mais pourquoi faire? Enfin, je veux dire, tu t'attends à ce qu'on braque ta maison ou machin. Il n'avait pas de peur concrète, mais il était armé pour se protéger d'une peur irrationnelle. Et c'était vraiment intéressant. Et du coup, c'est d'ailleurs celui qui nous a le plus parlé. Sachant qu'on leur a tout de suite dit qu'on était journalistes. On leur a évidemment dit qu'on ne ferait pas d'article là-dessus, qu'on venait discuter tranquillement, machin. Mais, et du coup, ils ont fait les cons. C'était vraiment terrifiant. Et pour montrer à quel point ils étaient à l'aise. Il y a un flic qui sort, mais il était vraiment peinté. Et il avait son flingue, il était en uniforme, mais il n'avait pas son truc de CRS. Et il fait, bon les gars, on va en boîte, c'est moi qui roule. Il a pris une camionnette de CRS, mais il était murgé, tous les autres rigolaient, mais ils sont montés dans la camionnette, ils sont allés dans le centre-ville de Calais. Et après, l'autre flic m'a dit qu'ils l'ont fait exprès parce qu'on était là. Mais en gros, ils ont donné le volant au mec qui avait 3 grammes pour aller dans le centre-ville de Calais. Et ça montrait un peu l'ambiance, machin. Mais ce policier-là m'a dit qu'il ne les gardait pas plus de 10 jours sur la zone. Et qui tournait tous les 10 jours. Et qu'en général, et ça on l'a vraiment observé quand on voyait les unités tourner, les 3 premiers jours, les flics à Calais, ils sont ultra nerveux. Et à chaque fois, mais c'est les mêmes. Les flics ou gendarmes, c'est pareil. Ils sont ultra nerveux. Je sais pas ce qu'on leur a dit. Je sais pas qu'est-ce qu'ils s'attendent de voir des Afghans avec des Kalachnikovs qui sortent des trous de lapin. Mais ils sont, le premier jour, ultra crispés sur leur bouclier. Ils tirent au moindre. J'ai vu un flic tirer au flashball sur une mouette parce qu'elle sortait d'un déguisateur, alors du coup il a tiré sur la mouette et d'ailleurs elle s'en est sortie heureusement. Et, voilà, ils sont vraiment très crispés et au bout d'une semaine, à 10 jours, ils sont totalement relâchés. Ils ont les bras ballants, ouais Jean-Mi, alors tu joues à quoi sur Facebook, ils sont dans la camionnette, ils en ont plus rien à foutre, ils sont dépités. Et c'est un changement, en une semaine on voit leur visage. C'est-à-dire ils attendent en arrivant à Calais que ce soit la guerre et au bout d'une semaine ils se rendent compte de la misère que c'est et de le fait qu'en fait ils vont pas pouvoir faire grand chose, il n'y a pas d'affrontement non plus tout le temps, etc. Et ils sont totalement désarçonnés et au bout de quand ils arrivent dans cet état on les renvoie ailleurs machin. Et il y a énormément de CRS et de gendarmes qui circulent à Calais parce qu'ils y restent que 10 jours et c'est super rare quand on regarde sur Notre-Dame-des-Landes, les flics ils y restaient 3 semaines, 1 mois. Donc dans la stratégie, alors je ne sais pas si c'est l'état d'urgence qui fait qu'il y a plus de flics qui circulent selon le machin, mais la police avait tendance à plus kiffer son déploiement à Notre-Dame-des-Landes qu'à Calais, apparemment. Enfin, je pense. Et pour la loi travail, c'était quoi la question originale?
Est-ce qu'ils font leur boulot d'après vous,
Je ne vais pas répondre à cette question, j'ai des procédures en cours.
Qu'est-ce que tu entends par là exactement?
Le fait qu'ils utilisent des grenades de désencerclement pour entre guillemets, se protéger aussi, je veux dire, parce que quand vous dites des personnes qui attaquent aussi avec des extincteurs, enfin, oui, vous les mettez pas. Enfin, je veux dire, c'est aussi grave entre guillemets quoi, qu'il y a des gens qui attaquent. Enfin, je dis pas que les flics ont pas, c'est pas bien qu'ils crèvent les yeux de gens.
Bah, je vais donner un exemple simple. Si on était en Allemagne, alors ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. D'ailleurs, le flashball non plus en fait. Voilà la différence. Matraque, grenade lacrymogène, canon à eau. Donc la zone de sécurité, elle est là. Voilà. En France, elle est là. Et une fin de manif de très grande importance en Allemagne, je ne porte pas forcément la Polizei de mon cœur non plus, hein, mais j'ai remarqué de moi-même qu'à la fin d'une manif équivalente en Allemagne, tu vas avoir 2 flics blessés parce qu'ils se sont tordus la cheville, comme en France, et 2 manifestants blessés parce qu'ils se sont brûlés avec leur cocktail Molotov. Pourtant, il y a eu vraiment du fight pendant toute une journée. En France, tu vas avoir 3 mecs à l'hosto pour un trou de grenade désencerclante, un qui a perdu un œil au flashball, 500 interpellations, les mecs ils sortent, ils sont en morceaux. Et les Allemands, c'est pas des enfants de cœur. Hein. Je veux dire, ils sont en manif, ils sont pires que les Français parfois. Et pourtant, voilà. Et c'est l'Allemagne a une histoire aussi à cause de la Seconde Guerre mondiale et tout, le gaz lacrymo, tout ça, ils aiment pas trop l'utiliser, machin. Et c'est pas du tout la même stratégie policière. Les Français font des bons offensifs. C'est-à-dire, un CRS, il va te courir après pendant 50 mètres. Si t'arrives à courir plus de 50 mètres, il ne courra jamais plus de 50 mètres. Il est épuisé avec ses 30 km d'arrêt de 50 mètres, c'est une grenouille. Il n'en peut plus, il est fini. Un policier allemand, c'est pas du tout la même chose. Il va te courir après en petite foulée, mais pendant 3 km. Il te lâchera pas, quoi. Il ils le disent en plus, c'est super. Tu te fais courir après, quoi. Et c'est pas du tout la même stratégie. Et pourtant, je ne dis pas que le modèle de maintien de l'ordre allemand est meilleur que le français. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais je suis mal placé pour le dire en plus. Mais le fait est que le nombre de blessés des deux camps à la fin d'une manif totalement équivalente, il est 5 fois moins réduit chez les Allemands que les Français, alors qu'ils n'ont pas du tout les mêmes armes. Quoi. Moi, je trouve que le flashball, le LBD et la grenade de désencerclement, ça n'a rien à faire dans du maintien de l'ordre. Ça, c'est mon avis personnel. J'en ai fait la meilleure expérience personnellement, donc je me suis pris 3 flashballs, plusieurs grenades d'encerclement, j'en ai encore des trous là, machin. Et avant la loi travail, j'étais un peu un des seuls. Aujourd'hui, c'est vraiment une épidémie, quoi. Le nombre de gens qui ont été blessés par les grenades d'encerclement pendant la loi travail, ça n'a pas été mesuré, mais ça se compte en centaines, quoi. Il y a des charges à un moment où ils en ont balancé plusieurs dizaines en même temps, quoi. Il y a quand même Rémi Fraisse qui est mort. Rémi Fraisse, j'étais sur la ZAD, pas à ce moment-là, je suis arrivé 2 jours après. Pour vous donner une idée, la ZAD de Sivens, la terre avait été arrachée par les travaux. Donc, tout l'humus est parti. Il restait une couche d'argile qui avait été compactée par un tracteur. Donc c'est dur, c'est vraiment solide. C'est le genre de terre où si vous donnez des coups de talon, vous n'arrivez pas à aller plus loin, quoi. Quand une grenade offensive pétait là-dedans, ça faisait un cratère comme ça, de cette profondeur, et les éjectas dont on a pris des échantillons étaient jusqu'à 15 mètres de distance. Le trou comme ça dans de la terre compactée au tractopelle, sur le cou de Rémi Fraisse, je vous laisse imaginer la boucherie. La tache de sang de là où il est tombé, quand ils l'ont traîné, elle est restée sur le sol de l'argile pendant 2 mois, quoi, malgré la pluie, etc. C'était vraiment de la boucherie, quoi. Et donc voilà, je pense que les grenades et les LBD, ça sert à rien, en plus, parce qu'au final, ça énerve les gens. Et il y a aussi un autre truc, et je terminerai là-dessus, parce que ça, c'est vraiment un truc très mauvais, mais c'est ce mouvement-là qui pose problème avec le LBD, quoi. C'est que la police, elle lève une arme sur toi. Quand elle lève une matraque, quand elle te balance une grenade, quand elle te pousse avec le bouclier, c'est du maintien de l'ordre. Quand elle te lève une arme sur toi, c'est pas pareil, quoi. C'est le geste, en sociologie, en histoire, on l'a appris, mais le fait de voir, de mettre un genou au sol et de lever une arme sur la foule, même si c'est une balle en plastique, ça me pose un problème républicain, en fait. Donc, si les Allemands arrivent à gérer leur fou furieux sans ce matériel, il est peut-être temps à la police française d'arrêter de croire qu'elle a le meilleur système de maintien de l'ordre du monde et de donner des leçons aux autres, quoi. Notamment Bahreïn, l'Égypte, la Libye, la Turquie et les nombreux pays d'Afrique. D'ailleurs, je vous invite à regarder des vidéos de problèmes au Sénégal, au Mali, etc. C'est que des équipements français. C'est le même matériel. C'est des Cougars, c'est des LBD, c'est des grenades de désencerclement. Les flics, on dirait des CRS, ils ont les mêmes casques, ils ont les mêmes. C'est exactement pareil. La France est un énorme, je crois, même le premier exportateur de matériel de maintien de l'ordre avec les États-Unis. Là, leur technique, la loi travail, ce que ça a montré, c'est que ça marche pas, quoi. En plein Paris, en fait, je sais plus comment on appelle ça, mais la méthode de maintien de l'ordre à la française en plein Paris pendant le travail, on a pris cher quand même. Hein. Ça marche pas très bien, quoi. Au contraire, ça énerve les gens. Quand tu vois une gamine de 16 ans qui se fait arracher la gueule avec un trou comme ça, t'as encore plus envie d'aller en manif. Alors qu'au final, est-ce que c'était proportionné, quoi? Après, il y a une grande question, c'est que dans la loi, normalement, c'est censé être proportionné. Normalement, ils sont pas censés faire un acte qui va. Alors, je sais plus exactement la formulation, mais la police n'a pas le droit, en maintien de l'ordre, de provoquer un acte qui va avoir des conséquences pires que si elle avait rien fait. Je crois que c'est ça la formulation. Donc elle a pas le droit de balancer une grenade d'encerclement s'il y a 15 hippies qui auraient rien fait s'ils n'avaient pas balancé la grenade. Alors qu'après balancer la grenade, ils sont énervés parce qu'ils se sont fait shooter la gueule. Donc voilà, c'est... Il y a aujourd'hui Joachim Gatti qui a eu sa condamnation. Donc c'est un mec qui a perdu un œil au flashball en 2007. Le policier qui lui a arraché un œil au LBD, il a pris 6 mois avec sursis et il n'a pas d'interdiction d'exercer. Pierre Douillard à Nantes, qui est le premier à avoir perdu un œil au flashball, le tribunal a quand même considéré, et c'est vachement nouveau ça, hein, qu'il avait la moitié de la responsabilité. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais c'est absolument incroyable. Et donc c'est un gars qui était lycéen, il avait 17 ans, il manifeste à la sortie de son lycée, il se prend un LBD dans la gueule, il se fait arracher un œil. C'est le premier en France. C'était une manif après, je crois que c'était l'affaire Leonarda, ou autre, comme ça, je ne sais plus, enfin, c'était en 2007, donc c'était plutôt Sarko. Et... en gros, après des années de procès, 7 ans quand même, la justice a considéré que... donc il a eu une réparation, mais il n'a eu que la moitié de la somme, parce que la justice a considéré que comme il était dans l'attroupement, il avait la moitié de la responsabilité. Donc le mec, il a perdu un œil parce qu'on lui a tiré dessus, mais c'est un peu de sa faute, parce qu'il était dans la manif. Et ça, c'est totalement nouveau, c'était jamais arrivé avant. Et évidemment, il a fait appel, machin, mais c'est incroyable. Enfin, après, moi, je me plains pas, mais j'ai quand même un juge qui m'a expliqué que parce qu'il a tellement rien, qu'en gros, si je suis sous contrôle judiciaire, c'est parce que j'ai une fiche S, quoi. C'était jamais arrivé non plus. Même le Canard Enchaîné a fait un article cette semaine. Je sais pas trop où on va en ce moment, mais il y a l'état d'urgence, ça a permis moi, j'appelle ça, c'est la boîte de Pandore, quoi. Maintenant qu'elle est ouverte, tout devient possible. Je suis presque plus surpris de rien, quoi. Enfin, tous les jours, il y a autre chose. Et ce qui s'est passé avec les réfugiés est très différent de ce qui s'est passé avec la loi travail. Mais l'inhumanité que j'ai pu voir dans certains policiers par rapport à la situation des réfugiés me paraît bien pire que leur violence par rapport aux manifestants de la loi travail. Dans le sens où les manifestants de la loi travail, ils sont venus pour fighter, quoi. Donc à un moment, quand ils prennent dans la gueule, bon, c'est très déplorable, mais ils sont là pour ça, quoi. Les réfugiés, ils n'ont rien demandé, quoi. Et pourtant, ils en ont pris encore plus dans la gueule. Je tiens à rappeler quand même que la préfecture a dit, depuis le 1er janvier 2016, au 1er octobre, ils avaient tiré 36 000 grenades lacrymogènes, fois 6 palets de lacrymogènes. En gros, tous les jours, ils en ont tiré. C'est moi, j'ai respiré du gaz lacrymo là pendant le travail, ça s'entend encore dans mon nez, je sens plus rien, j'ai plus de goût. Quand on m'a pris tous les jours dans la gueule, c'est genre, c'est criminel quoi. Ça, plus ça, plus ça. Enfin, donc voilà. Je suis pas habitant d'extrême gauche parce que je pense que sinon j'en dirais bien plus que ça quoi. Voilà. Une autre question ?
Hésite.
Ça fait une heure et demie que vous parlez majoritairement des violences policières et du fait que les policiers, sur le fait que je suis d'accord avec vous, n'agissent pas toujours de manière très républicaine, mais vous passez totalement sous silence les violences qui sont aussi faites, notamment dans les manifestations, et je questionne le côté républicain des coups d'extincteur que vous ne mettez pas dans vos vidéos, des cocktails Molotov, des pavés que se reçoivent aussi les CRS qui sont plus protégés, on est d'accord, mais ça fait une heure et demie que vous parlez de tous ces gens qui sont faits massacrer par les flics, alors qu'il y a aussi des flics qui se retrouvent dans les salles d'État et qui n'ont pas vraiment signé
que le bras qui se lève.
Est-ce que vous
questionnez en rapport avec ça, sont liées à ça
en même temps ou...
Si non, c'est sur le même sujet, peut-être qu'on peut prendre plusieurs commentaires ou questions et puis Gaspard répondra. Allez-y.
Pour la différence entre les deux choses, c'est qu'il y en a, c'est un outil. C'est-à-dire que CRS, j'imagine qu'il y a une formation quand même assez conséquente, il y a un diplôme, il y a quelque chose. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont payées, qui représentent l'État. On ne peut pas mettre les violences policières, enfin violences, ça dépend comment tu l'entends, au même niveau que ce qui se passe pendant les manifestations. C'est-à-dire que quand il y a par exemple, ouais, tu parles de coups d'extincteur comme ça, mais quand il y a un manifestant qui est blessé par un flashbomb ou un coup de matraque ou ce genre de choses, là où il y a une nuance à faire, c'est que lui, il représente les autres. C'est-à-dire que il est dans l'exercice de ses fonctions, il est dans son métier, on ne peut pas le mettre au même niveau que. Certes, il y a des violences pendant les manifestations. Je pense que c'est un phénomène qui, au-delà de la France, arrivera toujours. Il y a toujours des personnes qui soient vraiment motivées par les causes, soit qui n'ont vraiment rien à faire et qui viennent juste là pour se battre avec la police. Il y aura toujours ça. Mais là, je pense qu'il y a une différence, on ne peut pas les mettre au même niveau. C'est qu'il y a des violences policières, et ce sont des personnes qui représentent l'État, c'est-à-dire qui ont un insigne, qui ont des responsabilités, même si parfois, voilà, ça. Moi, j'ai assisté à des manifestations différentes, même à des événements sportifs où il y avait une forte présence policière, et ce qui me choque toujours, c'est que des fois, on a l'impression que le CRS et la personne en face sont à un pied d'égalité, c'est-à-dire que plusieurs fois, des disputes entre un CRS et un policier, entre un CRS pardon, et une personne, et au final... ça ne peut pas se passer parce que, enfin, pour moi, ce que j'estime, c'est que le CRS ne peut pas avoir la position que l'individu a en face. Il est censé avoir un comportement professionnel. Et c'est pour ça que, quand on parle des violences dans les manifestations, tout ça, on dit souvent « Ouais, mais les policiers répondent parce qu'on leur gère des trucs, tout ça. » Mais ils sont engagés, ils savent à quoi s'attendre. C'est-à-dire que même si ça ne vend pas du rêve, bah, c'est leur métier.
Ils doivent se prendre les
pavés
et les
côtés de moteur
sans rien
réfléchir.
Non, pas
sans rien. Ok, peut-être, sans qu'il y ait de dialogue entre vous.
Pour répondre concrètement à ta question.
On va faire si vous voulez bien. Si vous voulez bien, c'est moi qui vais diriger les débats. Et donc, effectivement, le commentaire, on peut peut-être en prendre un autre si c'est sur la même question. Et après, Gaspard répond. Éventuellement, tu as le droit de t'immiscer dans le... Mais d'abord, les étudiants de licence.
On me dit, tu es en train de dire qu'il passe sous silence, machin, sauf que...
En même temps, il m'a posé la question, j'y réponds aussi.
Dans le reportage qu'il a fait, où il parle de l'extincteur, il ne dit pas qu'il coupe le moment où il y a l'extincteur. Il dit qu'il coupe le moment où on peut identifier la personne qui donne le coup.
C'est
pas
vrai. Non, c'est justement, c'est quelque chose que je voulais.
Je donnais l'information telle que c'est arrivé, au final.
C'est quelque chose que je voulais te demander.
Comme manifestants qui sont.
C'est quelque chose que tu as dit auquel je ne suis pas d'accord. Tu as dit que je ne mets pas dans les vidéos le coup d'extincteur. Tu n'as pas bien écouté ce que j'ai dit. Justement, le coup d'extincteur, il y est. c'est quand le mec se barre que j'enlève le moment où on laisse son visage. Donc je coupe plus tôt pour éviter d'avoir tout le mouvement. En gros, en général, tu laisses un mouvement. Le mec, il rentre dans ton plan, il met le coup d'extincteur et il sort de ton plan. Moi, je vais le faire rentrer dans le plan, il met le coup d'extincteur et clac, je le coupe. À un moment, il se retourne pour pas qu'on voit son visage. Mais le coup d'extincteur, il y est sur le flic.
Donc c'est protéger la personne d'être condamné pour ce qu'elle a fait. Alors que les policiers, c'est pas un problème d'habitude.
Deuxième chose que je voulais dire, si à un moment.
Soit on filme tout le monde, le visage de tout le monde, soit on filme le visage de toute personne. Oui, c'est.
Okay. Qu'il y a des conflits, etc. Je veux pas te dire.
À ce moment-là,
on filme. Il y a Michel.
Regarde un autre détail, c'est un peu normal que je mette un focus sur les événements de la loi travail.
Écoute, si tu veux.
C'est un peu normal que je mette un focus sur la loi travail. On est à Paris 8, quoi. Donc moi, j'ai quand même dormi plusieurs fois là dans la fac au mois de mai, avril, etc. Et il s'en est passé des choses ici. Donc c'est un peu normal que ces questions reviennent et que voilà. Et ensuite, ce que tu poses comme question, c'est l'égalité de traitement de l'information. Comme je te l'ai dit, j'ai des flics qui quand ils ont vu passer, ils font ouais, c'est tardi, hey, filmez-nous et tout machin. Ils les regardent les vidéos et eux, ça m'a fait bizarre. Sont contents de voir ça parce qu'ils disent ouais, c'est bien, vous filmez la violence des manifestants qui nous en mettent plein la gueule. J'ai des flics qui m'ont dit ça déjà. Et ça m'a fait bizarre, mais je considère que c'est un compliment de journaliste. Ça veut dire qu'à un moment, voilà, c'est. Moi, je suis au milieu. Donc, t'as les mecs à gauche qui sont masqués, qui arrivent avec des extincteurs, et t'as des mecs à droite avec des LBD et des grenades qui leur tirent dessus. Il y a des moments où la caméra fait ça, il y a des moments où la caméra elle fait ça, mais je suis pas en train de dire regarde ces gros bâtards, machin, etc. C'est à toi de te faire ta propre idée. Si à un moment, le visage du mec, il va rien t'apporter en information. Le coup d'extincteur, ouais. Autant à toi que aux policiers. Donc, je pense que tu as mal pris la réflexion sur l'extincteur. Mais voilà, on est à Paris 8, donc c'est normal qu'on parle de ça, et c'était sa question. Et par rapport à la police, voilà, je fais beaucoup d'autres choses, mais il faut dire que cette année, je les ai eu un peu dans les pattes, quoi. Voilà, j'aurais préféré que ça se passe autrement, je te rassure.
Voilà. Alors peut-être, en complément de la petite discussion qu'on a là, il y a un point qui est quand même intéressant, qui est, tu l'as rappelé tout à l'heure, que vous avez fait le choix de produire des images sans commentaires, par exemple. Voilà, ce qui ne veut pas dire sans point de vue, hein, bien évidemment. Hein. Et donc, la question que moi, j'ai plutôt envie de te poser, c'est pas tant tu prends parti, etc., mais forcément, en tant que toi, journaliste, reporter d'image, membre de Taranis, etc., il y a un point de vue que tu portes. Tu filmes pas au hasard, pas n'importe comment, etc. Et donc, parce que tu filmes, par le montage, etc., il y a un point de vue. Et parfois, et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce point de vue-là, tu l'as dit tout à l'heure un peu en disant parfois on vend des images et la BBC va mettre du commentaire dessus, dire quelque chose, RT va mettre un autre commentaire et va faire dire autre chose aux images, etc. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement ça ne pose pas de problème, disons-le comme ça, la formule est mal trouvée, mais que finalement cette image qui est nécessairement polysémique, d'accord, même s'il y a un point de vue dedans, d'accord, puisse être finalement utilisée par les uns, les autres, etc. Et tu disais qu'il y avait effectivement des compliments de part et d'autre parfois qu'on t'adressait, aussi bien du côté des manifestants que du côté des policiers, des critiques de part et d'autre du côté des manifestants et des policiers. Il y a aussi quelque chose dont on avait parlé, mais très très vite, qui me semble aussi important, c'est qu'on voit de plus en plus aussi qu'il y a un acteur médiatique de plus en plus important dans les conflits sociaux, que ce soit les manifs, mais on peut imaginer un tas d'autres trucs, qui est que la police produit elle-même des images. Elle produit des images, elle produit des experts qui vont s'exprimer dans les médias, et donc la police n'est plus simplement, à l'heure actuelle, et je pense que c'est dans le cadre médiatique, un élément tout à fait important, n'est plus simplement des forces répressives de maintien de l'ordre, d'accord, avec toutes les nuances qu'on peut avoir sur ils font leur boulot, ils font pas leur boulot, ils font bien, ils font mal, d'accord, ça c'est un autre débat, mais la police devient aussi une instance médiatique, c'est-à-dire que la lutte sociale, elle se passe dans les rues, mais elle se passe aussi par médias interposés, aussi par paroles interposées, d'accord, il y a une espèce de double front, hein, je dirais de lutte dans les rues et de lutte bien évidemment dans les médias et dans les têtes, donc forcément. Et donc le choix que vous avez fait au regard de ce nouvel environnement là de ne pas commenter les images en disant bah c'est à vous de faire votre opinion, au regard de tout ce que tu as vécu cette année et de ce que tout, est-ce que finalement vous n'avez pas envie d'en mettre au final des commentaires?
Alors il y a un autre truc qu'il faut dire, c'est qu'en fait mettre des commentaires, moi je trouve ça, j'ai fait de la radio mais j'aime pas ça en fait. Donc ça, à la base c'était aussi une des raisons, c'est j'aime pas le faire. Donc, je trouve, enfin, j'aime pas entendre la. C'est... Il n'y a rien de plus insupportable que leur voix monotone à la télé sur certains reportages. Jean-Marie a pris sa voiture ce matin, machin. Et jamais j'aurais voulu faire ça. C'est, pour moi, c'est un côté un peu le commentaire à la BFM télé, quoi. Et j'ai ce côté, ça me fait chier d'entendre parfois. Il y a des commentateurs qui sont géniaux, des mecs de la BBC, des documentaires qui sont très bien faits, avec des commentateurs. Cette voix, elle te guide vraiment. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que le commentaire, c'est certaines fois pour illustrer. Enfin, c'est plus l'image qui parle. C'est le mec qui parle et l'image, elle sert juste à illustrer ce qu'il dit, en fait. Du coup, voilà, c'est un... Ensuite, pour les, tu disais par rapport aux reprises hors médias. Faut savoir qu'il n'y a pas que... Il y a quand même Alliance, le syndicat principal de la police, qui a repris nos images pour faire de la propagande, justement, syndicale, en disant, regardez ce que prennent nos policiers, machin. Il y a énormément de clips de musique, de rap, etc., qui nous reprennent nos images. Alors, on a un deal avec eux, etc., pour évidemment, ils ne payent pas, machin. Mais c'est repris. L'extrême droite reprend nos images, parfois, et ça me fait vraiment chier, aussi. Mais ça fait partie de la guerre des images, en fait. Et ça, c'est propre à YouTube, c'est propre à Internet. Et en fait, au bout d'un moment, tu cesses de lutter contre toutes les reprises. Parce que tu peux pas, en fait. Une fois que tu mets une vidéo sur Internet, si c'est une vidéo qui montre quelque chose d'important, elle va être reprise, elle va être piratée d'une certaine manière dans son message autant que dans son contenu. Ensuite, moi, je me suis toujours dit, l'information qui manque aujourd'hui, c'est le brut. C'est pas l'analyse, c'est pas le commentaire, en fait. On en a partout, des commentateurs, des mecs qui passent leur temps à sortir de leur bureau pour venir s'asseoir à un autre bureau pour dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont vu derrière le journal ou leur écran, mais ils sortent pas, ces mecs-là. Je me suis fait clasher sur France Info, sur Les Informés, par Metou, le directeur de l'Express. Du coup, j'étais énervé, je suis allé regarder sur son site. Il a pas mis le cul dehors depuis... J'ai même pas réussi à trouver quand. Tous ses articles depuis le mois de juillet sont écrits, c'est des articles de desk. Il est dans son bureau. Moi, je trouve que l'information qui manque, c'est le brut. Après, il y a une armée de gens qui sont là pour commenter, pour dire ce qu'ils en pensent, pour dire c'est bien, c'est pas bien. Mais ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de sortir le brut et pour que ça soit, pour qu'on puisse travailler sur des faits de réalité. C'est-à-dire, quand les commentateurs parlent de choses dont t'as pas de preuves, dont t'as pas d'images, dont tu sais pas de quoi on parle, en fait. Là, au moins, quand t'as la préfète du Pas-de-Calais qui dit « Tout est réglé, la jungle est évacuée et que nous, on est dedans et qu'il y a 3500 mecs en train de faire la queue », bah, elle a l'air un peu con, la préfète, quoi. Si on n'avait pas ces images-là, elle pourrait dire ce qu'elle veut. Alors, c'est un mauvais exemple, tu vas dire que je prends encore contre la préfecture, mais disons que, voilà, on... Dans ce cadre de faits qui sont des faits d'actu super importants, on fournit une image brute qui permet à d'autres de faire l'analyse. Et au début et encore aujourd'hui, on n'a pas la légitimité de donner notre avis, en fait. Parce qu'à la seconde où on va le donner, déjà là, je suis des militants d'extrême gauche, machin, si je commence à donner mon avis, ça va être encore pire. On ne me le permet pas, je n'ai pas droit. C'est-à-dire des mecs qui n'ont aucune légitimité en tant que journaliste de terrain peuvent passer leur journée à dire ce qu'ils pensent sur les chaînes d'information continue. Moi qui suis tout le temps sur le terrain, qui rencontre les gens, etc., j'ai pas cette légitimité-là. Elle m'est pas reconnue. Pour l'instant, je reste dans cette position. Et si un jour je considère que je serai assez vieux et expérimenté pour donner mon avis, je le donnerai. Mais pour l'instant, mon travail, c'est de permettre à d'autres de voir le monde tel qu'il est sur le terrain. Et après, ils en disent ce qu'ils en veulent, quoi. Et évidemment que ça me fait chier quand ils utilisent ça pour faire de la propagande ou raconter des conneries, etc. Il n'y a rien de pire quand l'histoire de la vidéo qui est la plus vue chez nous, c'est quand même le mec qui braque un fusil de chasse sur des migrants, machin. Alors, il faut replacer le contexte. C'est un père et un fils. Donc, le père insulte une manif de migrants qui passe devant chez lui. Les mecs, c'est des Afghans et des Érythréens. Ils sont chauds bouillants. Ils sont en train de courir depuis 2 km et tout. Le mec, il leur fait des doigts d'honneur et tout. Go back to the jungle, bande de singes, etc. Fallait pas s'étonner que les mecs s'énervent, quoi. Donc, ils arrivent juste vers chez lui. Là, le fils, il pète un plomb parce qu'il y a sa moto qui est dehors dans la cour et qui veut absolument pas qu'on la touche, tu vois. Donc, il rentre dans la maison et il sort un fusil de chasse comme ça. Et il le pointe sur la foule. Et nous, on était juste à côté, tout le monde, putain. Et cette vidéo, c'est la plus vue de Taranis, etc. Ça a été la plus vendue, etc. Et elle a été reprise par l'extrême droite qui a dit, regardez, les migrants agressent les gens d'extrême droite. Enfin, les gens de Calais. Mais ces mecs-là, ils ont... ils ont reçu. Vous avez vu le gars qui s'est fait exploser la gueule par Soral là, bah, ce gars-là, c'est un grand pote de ces deux-là en fait. Donc en gros, il est venu les interviewer 15 fois. Il a fait toute sa promo là-dessus. Il est voilà, c'est tout ça, c'est un peu la même bande en fait. Et donc c'est vraiment pas des Macs inconnus en plus. Donc voilà, ils se sont servis de ma vidéo pour faire la propagande d'extrême droite. Ça m'a vraiment fait chier quoi. Mais voilà, ça fait partie du risque. L'Alliance Police qui fait machin. Alors évidemment, on a fait sauter leur vidéo à chaque fois. Mais c'est Internet quoi. Tu peux pas l'empêcher quoi. Ça fait partie du truc. Moi, ça m'arrive de pirater des vidéos chez quelqu'un d'autre pour les mettre dans mon reportage parce que j'ai pas ces images. Je parle pas de trucs d'actu, mais par exemple quand il y a des Cazeneuve qui a dit une connerie à BFM TV machin, ben, je leur prends la vidéo pour la glisser dans un petit montage machin. J'ai pas le droit de faire ça, ils vont pas me courir après non plus, mais voilà, c'est une question compliquée. La guerre des images aujourd'hui, c'est vraiment intense sur Internet, donc je reste un peu cloisonné à l'idée que tant que tu fais de l'information brute et que tu te concentres sur les faits et la réalité, on ne peut pas t'accuser de prendre position. Donc c'est pour ça que quand on dit militant d'extrême gauche, je me dis putain, mais j'ai rien fait encore, quoi. Genre, j'ai même pas eu le temps de dire ce que je pense. Voilà.
Et quelles sont les images, du coup, qu'on vous achète le plus ? Le peu de sous que vous arrivez à gagner avec ça.
C'est terrifiant, mais c'est la réalité, c'est la violence.
Et qui vous vendez le plus surtout ?
Ça, en ce moment, c'est très divers. Le Calais, ça a été très international. La loi travail aussi, parce qu'en fait, tous les médias français déployaient leurs propres unités sur place, les camions, les machins. Il y avait un nombre incalculable de visites. Ça, c'est un truc que que je voulais dire aussi. Au début, j'étais souvent tout seul sur un terrain. À Notre-Dame-des-Landes, j'étais un des seuls à être rentré dans la zone d'exclusion. Sylvain, c'était encore pire, je dormais avec eux pendant une semaine. Calais, quand on y allait en 2014, on était les seuls à avoir fait les premiers camps de migrants, etc. J'étais toujours sur un sujet où il n'y avait pas d'autres journalistes. Depuis le début d'année, je fais que des sujets où il y a des centaines de journalistes. Calais, la loi travail, machin, je suis jamais tout seul. Et c'est totalement différent, c'est presque nouveau, tu vois. Genre, dans ce cas-là, quand t'es pas tout seul, bah, tu peux pas vendre aux Français, par exemple. Quand t'as 1500 journalistes, machin, tous les reporters pigistes pour l'AFP, bah, tout est déjà vendu. Donc, à part si tu filmes un truc que les autres n'ont pas...
Est-ce que ça peut guider vos choix, par exemple? Dire, bon, vu qu'il y a tant de personnes, vu qu'il y a autant d'images, est-ce que du coup je vais essayer d'aller.
Bah, c'est une très bonne question, parce qu'un exemple typique sur l'évacuation de la jungle de Calais, là où je me suis fait mettre en garde à vue, j'allais pas vendre d'images. Je le savais pertinemment, tu vois. Je me suis servi de l'argent qu'on a fait du crowdfunding pour financer ce déplacement, parce que je savais que j'allais pas vendre. T'as 1700 journalistes de 40 pays différents, tu peux pas piger, c'est juste pas possible, à moins d'avoir le truc de ouf. Et du coup, j'ai essayé de faire ça light. Et il y a pas mal de sujets comme ça où j'y vais en sachant avant d'y aller que je ne vendrai pas. Parfois, il y a un miracle qui se produit, tu vois, mais il y a des sujets, c'est pas pour l'audience, c'est Calais, ça fait 4 ans que je couvre le truc, j'ai fait tout le début de la jungle, l'évacuation de la zone sud, là, il y a l'évacuation finale, je ne peux pas rater ça, quoi. C'est la fin de mon histoire, c'est comme si à un moment je veux faire un gros documentaire et qu'à le 3/4, je me fais chier, je laisse tomber, je fais marque fin et c'est fini, mais non, c'est pas fini. Et donc, du coup, je voulais faire l'évacuation et je voulais y retourner après pour montrer ce qui se passait après. Et donc, voilà, c'est... ça répond à ta question.
D'autres questions ?
Vous risquez quoi, en fait, si vous y allez ?
Je risque 6 mois de prison ferme et 750 000 euros d'amende. Et d'être en détention provisoire au minimum jusqu'au mon procès le 2 mars.
Voilà. Pourquoi vous avez choisi d'être
présent
uniquement sur Internet ?
Que sur Internet ? Bah déjà parce que c'est beaucoup moins cher. Tu pensais à quoi autrement que Internet ? Alors bah du coup quand on vend nos images à l'AFP, l'AFP est une agence et elle revend à la télé. Donc par exemple quand on vend nos images à l'AFP, tu les revois très souvent sur Canal+, sur TF1, sur c'est t'as les fois où on vend directement à un média. Donc là en gros nos images sont diffusées par ce média et des fois on vend aux agences. Là on sait même pas à qui eux ils vendent derrière. Et d'ailleurs Rodpli c'est une agence. C'est pas Russia Today, c'est par rapport à l'histoire des Russes. Donc c'est une agence. Donc elle-même, elle va donner ses images à Russia Today, mais elle va aussi revendre parfois. Donc ça on arrive des fois à voir nos images sur des médias qu'on connaît pas. Mais en fait, c'est parce que d'autres agences les ont vendues. Donc quand tu vends à des agences, tu perds tu sais pas à qui ils vont le vendre, quoi. Et il y a deux manières de vendre. Soit tu vends en exclusif, ce qu'on fait jamais, soit tu vends en non exclusif. Ça veut dire en gros, si je vends mes images à l'AFP en exclusif, j'ai le droit de les vendre que à eux. Donc du coup, c'est un peu plus cher, tu vois. Mais et eux, ils ont le c'est les seuls à avoir le droit de les revendre après à d'autres médias, quoi. Si je les vends en non exclusif, je peux les vendre à l'AFP, je peux les vendre à qui je veux, c'est moi qui choisis, quoi. Et du coup, c'est pour ça que l'AFP, c'est un peu des racailles sur ce plan-là, c'est que des fois, ils sont fâchés parce que bah du coup, t'as vendu directement au client moins cher que eux l'auraient fait. Tu les squeezes, en fait. Mais du coup, c'est logique parce qu'ils payent plus vite. Je donne un exemple. Si j'ai une image que je veux vendre à ITL, si je la vends à l'AFP à, disons, 500 euros, elle va le revendre à ITL, je ne sais pas combien. Mais moi, je ne vais rien toucher là-dessus. Je vais juste toucher mes 500 euros. Si elle le vend à 50 médias différents, j'aurai toujours touché que 500 euros. Ça ne changera rien du tout. Si par contre, moi, je vends directement à ITL, je me fais 500 euros. Si je le vends à BFM, je le fais de nouveau 500 euros. Si je le vends à Canal+, machin. Donc, de donner à une agence, t'es sûr d'avoir sur le moment d'être payé, mais après, tu sais pas si machin. Donc, c'est à toi de calculer en fonction de ton image si tu penses que c'est plus logique de vendre à une agence ou d'aller directement démarcher média par média. Mais tout ça, c'est très compliqué parce que sur des événements où il y a plein de journalistes, les médias, comme ITL ou BFM, envoient leurs propres journalistes. Donc déjà, eux, tu peux plus leur vendre, ils ont leur propre équipe. Tu as ensuite une armée d'autres pigistes. Tout le monde doit faire son bif, quoi. Par exemple, Rémi Buisine, on a dû l'engueuler, quoi. Parce que lui, il filait tout cadeau à tout le monde, quoi. Il est tellement content de faire le tour des plateaux télé et d'être une star qu'il a oublié que ben, c'est un métier, quoi. Et du coup, tous les médias étaient hyper contents de pouvoir prendre ces images et de les diffuser gratuitement. Et je suis allé le voir et j'étais pas du tout méchant avec lui. Je lui ai dit, Rémi, non seulement tu m'as fait perdre ce jour-là, et en fait, il avait sorti ces images et je lui avais chiffré pour qu'il voit ce qu'il avait perdu, tu vois. Je lui ai fait, là, tu m'as fait perdre 3500 euros. Mais t'as perdu 3500 euros aussi, puisque tu l'auras pas vendu. Et il s'est rendu compte que ça pose problème. C'est les médias qui sont des racailles aussi. Par exemple, il y a plein de fois des gens qui filment des choses, qui les donnent aux médias et ils sont pas payés, quoi. Alors que ça vaut une fortune, ils le savent pas, tu vois. Il y a des fois, si vous filmez des choses qui sont potentiellement vraiment intéressantes pour un fait d'actu, vendez-les aux médias, leur offrez pas, parce que sinon, ce qu'il y a de pire à savoir là-dedans, c'est que eux, ils vont le revendre derrière. Donc ils vont se faire de l'argent dessus. Donc de toute façon, c'est foutu, quoi. Si à un moment une vidéo importante, ça se vend. Voilà, c'est faut savoir.
Avec une demande de précision intéressante sur S. Vas-y.
C'est quoi un pourcentage sur les. Quand vous vendez une agence de presse
Non.
Comme Getty Images le fait par
une fois, ça marche pour la photo. Mais ça marche pour la photo parce que. Moi, je sais pas comment ils font les photographes. C'est vraiment. Je vais te donner un exemple simple.
Pour ça, par exemple.
Combien tu crois que ça rapporte une de Libération? Donnez des chiffres. Enfin, une photo.
Une photo une prise à la une de Libé.
Voilà, qui la passe une de Libé, une photo. En pesos.
En euros.
1000 euros.
Moins 1000 euros. 800.
Allez, on y va, c'est une question pour un champion. Ouais. Allez.
500 derrière.
C'est 152 euros hors taxe. Ça veut dire qu'une fois que vous avez tout payé, il reste 80 balles. Voilà. Donc, à moins de faire la une de Libé tous les jours, tu ne seras pas au SMIC. Voilà. C'est ça le problème de la photo. Donc, à un moment, la photo, tu as une commission sur les reventes parce que c'est tellement ridicule comme recette que si tu n'avais pas ça, voilà. Ils pinaillent sur tout, en fait. Et c'est logique. Parce qu'à un moment, un quart de page Libé, tout Libé, tu as une photo qui fait la moitié de la page. 52 euros hors taxe. C'est les tarifs. Et c'est pas Libé, c'est tout le monde comme ça. Et donc les photographes, je sais pas comment ils font. Franchement, le mec qui shoot toute la journée pendant la loi travail et qui a la une de Libé, tu vois, imagine un photographe, il a fait la une de Libé deux fois dans la semaine, des moitiés de machin, il a gagné moins qu'un gars qui a bossé chez Pizza Hut, quoi.
Oui, je suppose qu'il doit avoir une exclusivité.
Non, mais c'est la réalité. Et donc les photographes, c'est encore pire. C'est vraiment une situation de merde. Et ça, c'est un truc qu'on essaie de changer aussi, mais c'est un problème.
Enfin, et quand vous vendez aussi, vous avez un droit de regard à qui ils revendent ou...
Ah bah c'est toi qui choisis, évidemment. Quand par contre tu vends une agence, tu sais pas
à
qui ils vont.
Oui, non, je veux dire, quand eux ils revendent, est-ce que vous avez un droit de regard à qui.
Alors théoriquement oui, mais en fait a posteriori. Parce qu'on sait pas à qui ils vont vendre. Ils vont pas t'envoyer un mail, en plus non seulement ils te payent pas, mais ils vont encore moins t'envoyer un mail en disant oh, tiens, au fait j'ai vendu des. Tu sais pas, on découvre nos images ailleurs, machin. Et du coup c'est chiant parce qu'on est obligé de vérifier qu'ils les ont bien achetées à l'agence. Parce que du coup ça nous est arrivé d'engueuler des médias en disant ah, bande d'enfoirés, vous avez piqué des images alors qu'ils venaient de les acheter à l'AFP, quoi. Donc c'est un problème. Mais il y a une situation qui commence à être emmerdante. il est photographe. Il faut savoir qu'il y a eu une autre période où il y avait un site, qui est une espèce de Uber du journalisme, que je ne citerai pas, Citizen Site, pardon, ça m'a échappé. Il vendait des photos à 3 euros, quoi. À 2,50 euros, à 50 centimes. Qu'est-ce que tu veux faire ? Le mec, à un moment, sont des photos de fleurs ou de mariages qui servent, tu vois, à illustrer. Pourquoi pas ? Mais dans les manifs de leur travail, il faut les financer, les masques à gaz, les casques, tu risques ta vie quand même un petit peu, donc ça vaut un peu plus cher, quoi. Mais honnêtement, les vieux responsables photos des grands médias, comme l'IB et autres, quand ils nous appellent pour nous dire les tarifs, ils sont déprimés autant que nous. Hein. Ils sont là, écoute, je suis désolé, mais ça va être 50 balles. On éclate tous de rire au téléphone, genre, vas-y, tu... ça vaut rien, quoi. Genre, tu veux faire une de l'IB à Calais, t'es à Paris, tu prends le TGV pour aller à Lille, ensuite tu prends le RER, le TER pour aller à Calais, ensuite tu dors une nuit à l'hôtel, tu manges, tu fumes tes clopes, tu rentres au retour, etc. T'en as eu pour 250 à 300 euros. Si par bonheur tu fais la une, t'as même pas remboursé 30% de ce que t'as investi, quoi. Voilà, c'est un problème. Donc en fait.
Vous avez compris, il faut pas être photographe.
Non, en fait, si, mais pas en France. Ou dans une agence qui paye bien, quoi. Mais attention, les mecs en Syrie, c'est pareil. Hein. Un mec qui fait des photos en Syrie, etc., ces images, elles valent rien du tout. Les mecs que tu vois parfois parler sur les grands médias en direct d'Alep, ou etc., on ne peut pas les payer directement parce que ils ne vont pas aller à Western Union à Alep, bonjour, je vais récupérer mes dollars, donc tu dois filer l'argent à un autre membre de la famille. C'est autant qu'un pigiste en France. Donc ça va être 150 balles par jour, quoi. Alors ok, les mecs disent ouais, c'est un Syrien, ça représente beaucoup d'argent. Mon cul, 150 balles par jour en Syrie, à un moment, te déplacer en Syrie d'un endroit à l'autre, ça coûte 1000 euros d'un seul coup, donc 150 balles, ça va pas l'aider, quoi. Et voilà, c'est si tu fais une de l'IB à Alep, c'est aussi 150 balles, voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. Moi, j'ai décidé de ne pas faire de photos et de faire de la vidéo parce que, voilà, au moins, on peut un peu s'en sortir dans le sens où, de temps en temps, tu fais des coups où tu te fais niquer, de temps en temps, tu fais des coups où tu peux te permettre de te faire niquer la fois d'après, quoi. Voilà, c'est un peu ça.
Une dernière question. Alors, combien il y a de questions ? Allez-y, posez-les.
C'est une question sur un autre sujet un peu, mais si on savait, vous qui avez fait pas mal de mouvements sociaux depuis.
Encore parler de la police, hein?
Non, c'était pour ça. Si vous deviez en retenir qu'un seul, ça serait lequel et pourquoi?
Le quoi?
Si vous deviez en retenir qu'un seul,
un seul quoi?
Ça serait lequel et pourquoi?
Un seul sujet?
Un seul mouvement.
Un seul.
De station, un seul reportage.
Un seul reportage? De cette année?
Comment?
De cette année?
Si tu pars tout seul sur une île déserte. Quel mouvement social tu gardes?
Ah, c'est ça la question? Si, quel mouvement social je préfère, quoi?
Non, pas préféré, mais qui vous a apporté le plus, vous avez eu les meilleures images, la meilleure expérience.
En tant que journaliste, voilà, quel est.
Ouais, je vais séparer la question en deux. On va dire celui que j'ai préféré et celui qui m'a le plus traumatisé. Ça me va comme réponse? Celui que j'ai préféré, c'est mon premier, clairement, et ça restera le pire de tous, c'est le sommet de l'OTAN à Strasbourg en 2009. Si monsieur pourra peut-être vous raconter du coup après moi, mais j'avais jamais vu ça, j'ai jamais revu ça et je pense que je verrai plus jamais ça, quoi. Genre c'était absolument dingue, c'était très compliqué. La France rentrait dans l'OTAN, donc c'était un grand moment. Charles de Gaulle, vous connaissez cette histoire, mais on n'a jamais été dans l'OTAN depuis qu'on a la bombe nucléaire parce qu'on est indépendant, machin. Donc Sarko a décidé de nous faire rentrer dans l'OTAN. D'ailleurs, aujourd'hui, on s'en mord un peu les doigts. Et c'est tout à fait un autre sujet. Donc c'était un énorme sommet international. Il y avait Obama qui venait d'être élu en 2009, donc il avait été élu en juin. Non, il venait de devenir président. Et il y avait un déploiement de policiers. Donc Strasbourg, c'est la frontière franco-allemande. Donc il y avait 22 500 flics français et 12 000 flics allemands. Pour vous donner une idée, le plus gros manif de loi travail à Paris, c'était 2500 flics. Il y en avait 10 fois plus. Et Paris, c'est plus grand que Strasbourg. Donc, à un moment, zone de sécurité, machin. Le soir où Obama est arrivé à Strasbourg, c'était machin, il y avait son hélicoptère Marine One, deux hélicoptères de combat là. J'étais chez moi, j'avais un verre d'eau sur la table, il a fait ça. C'est Obama qui arrive à Strasbourg. Et voilà, c'était comme ça pendant 3 jours. C'était sidérant. Je suis sorti chercher des cops. Moi, j'avais un pass parce que j'habitais au centre-ville. Je suis sorti chercher des cops. La ville déserte, tout, des barrières partout, des flics. Et à un moment, je veux traverser la route. Il y a un flic avec un FAMAS qui me dit stop, halt. je m'arrête comme ça. C'est la princesse de Copenhague qui passait. Elle était là, j'étais tout seul au milieu d'un boulevard, genre un gros boulevard de Paris. Elle était là dehors, elle me disait bonjour. J'étais tout seul comme ça. C'était surnaturel. Et après, il y a eu les manifs, etc. Donc ça, c'est le sujet qui m'a le plus... J'étais sur une planète. J'avais le sentiment que chaque truc qui pouvait se passer, fallait le filmer parce que c'était incroyable. Et ça l'a été. Enfin, puis bon, c'est un peu formateur. C'est mes premiers de Grenade. J'ai un peu appris... Pardon ?
Vous avez réussi à vendre des images que vous avez
faites ? Ah non, là, à cette époque-là, je ne les vendais pas. On les diffusait pour nous, quoi. Mais c'était vraiment très impressionnant. Et c'est là où j'ai vu, justement, la première fois, la police péter un plomb, quoi. Mais littéralement. En plus, là, c'était multinational. Donc, il y avait les flics allemands qui pétaient un plomb et les flics français. Donc, c'était vraiment très impressionnant. C'est resté un événement un peu fondateur pour pas mal de militants, nous aussi. Donc, il s'est passé quelque chose. En fait, jusque-là, le Black Bloc en France n'existait pas. C'est-à-dire, jusqu'à le sommet de l'OTAN, et ça c'est vraiment important, c'est un basculement, le Black Bloc c'était quelque chose d'allemand, quelque chose d'italien, et d'ailleurs, ce jour-là, au sommet de l'OTAN, c'était des Allemands et des Italiens qui étaient venus montrer un peu aux Français, enfin faire le truc en France. Donc les Français, au sommet de l'OTAN, ils ont appris ça. Ce qu'on a vu, la loi travail, l'équipement, les masques à gaz, les molotovs, les bombes incendiaires, tout ça, ça n'existait pas avant 2009 en France. Si on regarde les vidéos de 2005-2006, il n'y a pas de foulard dans les manifs, ça commençait, mais voilà. Mais le CPE, c'était un coup, trois manifs, et voilà. Mais là, vraiment, il y a eu un basculement. Dans les Français, ils ont vu les Allemands et les Italiens débarquer, monter leurs tentes dans le village, s'équiper et tout. C'était comme ça. Ils voyaient les Allemands sortir des tentes avec les caisses, avec les cocktails Molotov. Je les ai vus. Ils étaient comme ça. Genre. Les Français ont appris à ce village à devenir des Black Blocs. Et ensuite, on l'a revu dans les manifs suivantes. Et on l'a vraiment vu là dans la loi travail. Quelque chose qui n'existait pas. Ça n'a pas été inventé, mais ça a été développé. Et le sujet qui m'a le plus traumatisé, et encore aujourd'hui, c'est en septembre 2015, au milieu du mois de septembre, on est parti à Troyes. Sur la route des Balkans, au moment où les réfugiés arrivaient en masse, c'était l'époque de l'exode, machin. Donc il y en avait, en gros, on a pris une voiture, on a traversé la frontière à Strasbourg, on a descendu l'Allemagne, l'Autriche en voiture, la Hongrie, on a traversé la Serbie, et on s'est arrêté au milieu de la Serbie parce que la voiture avançait plus, parce que c'est un peu malonné. En gros, on a récupéré le flux de migrants qui montaient de la Grèce et qui traversaient les Balkans. C'était la dernière porte ouverte, en fait, pour l'Europe. C'est à cette époque-là où l'Allemagne disait « on en prend 2 millions ». Donc la porte était ouverte. Au point de contrôle de Roskeu, entre la Hongrie et la Serbie, il y avait jusqu'à 25 000 personnes qui passaient chaque jour. Et c'était des familles. Enfin, c'était vraiment... Enfin, j'ai filmé ça pendant 10 jours. On s'est arrêté donc, au milieu de la Serbie. On s'est arrêté à la frontière hongroise. On a fait le camp de Budapest, on a fait le camp de Salzbourg en Vienne. On a même trouvé les Hongrois mettaient les réfugiés dans les bus en disant « Oui, on vous amène à la frontière. » Mon cul, ils les amenaient un quart d'heure après dans un camp avec des barbelés, etc. C'était vraiment, il y avait du tri. Enfin, ça se passait pas du tout bien. Ils ont été condamnés par l'Europe pour ça. Et on était les seuls à les avoir filmés. Enfin, on a vraiment fait un travail, mais que je considère être le travail. Émotionnellement, déjà, ça a été le pire. Et vraiment, je me suis fait chier. On n'a pas dormi. On a dormi dans la bagnole. C'était vraiment très difficile. Et la Hongrie, enfin, c'est un pays super chaud. Machin. En Autriche, on s'est pris 500 euros d'amende pour avoir garé une roue sur le trottoir. Enfin, ils sont spéciaux là-bas. Et il y a une scène que j'oublierai jamais, et c'est à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, donc c'est la fin du parcours. Il faut imaginer pour les réfugiés syriens, afghans, machin, ils voient l'arrivée, quoi. Ça veut dire, t'as un fleuve, l'Elbe, t'as un pont, et de l'autre côté, il est chez lui, quoi. L'Allemagne, c'est là où il veut aller, quoi. Mais la frontière est fermée. En gros, on est arrivé à ce moment-là où Merkel, elle s'est rendue compte qu'il y en avait un peu beaucoup qui arrivaient, du coup, elle a dit stop. Et il y avait une ligne de flics sur le pont. Et il y a un père qui arrivait avec un gamin qui avait la tête en arrière, il avait l'air vraiment pas bien, quoi. Il était blanc et tout, les yeux révulsés. Et il avait un papier de Frontex, qui est l'agence internationale, machin. Il était prioritaire pour arriver à un hôpital de Munich, où il devait être traité pour une leucémie. Et c'était écrit en anglais, il y avait le passeport, le tampon et tout. Et le mec avait, le père qui tenait l'enfant, avait une traductrice allemande avec lui. Et moi je suis alsacien, je comprends pas l'allemand, mais il y a des insultes que je comprends très bien. Et en fait, en gros, elle était en train de leur dire, bande de cochons, vous allez le laisser passer, son gamin il va mourir là, il fait froid et tout machin. Et le père il comprenait rien parce qu'il parlait pas allemand. Il était assis avec son gamin comme ça, il avait l'air dans le vide autant que son gosse. Et derrière lui, il y avait une grande montagne comme ça. Et c'est assez intéressant parce que c'est l'Obersalzberg. C'est le nid d'aigle d'Hitler, en fait. C'est là où il a sa maison de campagne et où il passait la plupart de son temps. Donc, en fait, cet endroit est historiquement déjà très fort. C'est la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. C'est le berceau des nazis. C'est le nid d'aigle d'Hitler. Et Jasper qui est là, et la Polizei qui regarde la traductrice, qui fait « Nein !» Enfin, « Nicht !» Et là, on a filmé, on a pris une photo avec un de mes collègues. Tu peux rien faire. Enfin, je veux dire, tu vas pas taper les flics allemands pour forcer. Genre. Donc là, déjà, tu te sens franchement con et inutile. Genre, je me rappelle qu'on a tourné le dos à la scène pour respirer. Quoi, genre. Ok, on y retourne. Et dans la bagnole le soir, ça m'est jamais arrivé. Enfin, mon collègue Louis de Viter, il a fait la Turquie, il a fait la Syrie, il était au Liban. Enfin, ouais, c'est pas non plus. Il a fait toutes les manifs. On en a vu des trucs dégueulasses et de la boucherie. Enfin voilà, ça va quoi. Mais là, on a chialé comme des baleines pendant 2 heures dans la bagnole quand on a vu les images après au montage, quoi. Et tu peux rien faire. Et ce reportage, il a fait 2500 vues encore aujourd'hui. C'est un documentaire de 45 minutes. J'ai publié 50 000 fois. J'ai fait tout ce que je pouvais, putain. Personne ne l'a regardé, quoi. Et c'est une déchirure, c'est un traumatisme. Moi, j'en ai rien à foutre que 2 millions de vues sur le mec qui braque les gens au fusil. C'est du BFM TV, quoi. J'aurais presque dû pas le diffuser, quoi. Mais ça, je voulais que les gens le voient, quoi. Qu'à un moment, là, ce qui est en train de se passer en Europe, machin, dans l'espace Schengen, c'est un truc de fou. Enfin, il y a des familles qui y a des enfants qui disparaissent, il y a des enfants qui meurent. Cette nuit-là, il faisait moins 15 degrés à la frontière, et on était au mois de septembre, donc t'imagines en hiver ce que c'est. Et voilà, les gens l'ont pas regardé. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas le courage de le regarder, ce que je peux comprendre, mais je pense qu'il y en a qui s'en foutent, quoi. Et de la même manière qu'aujourd'hui, pendant qu'il y a le marché de Noël à Strasbourg, il y a 400 personnes qui dorment dans la rue. Là, tout est réglé à Paris, mon cul. Il y a encore un camp de migrants à Saint-Denis, justement, à côté du centre d'accueil, etc. Mais c'est réglé. Dormez, braves gens. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est quelque chose qui me fait mal en tant que journaliste. C'est-à-dire que là, c'est là où la frontière entre donner son avis ou pas pose problème. C'est que là, tu sens qu'il faut que tu parles. Parce que sinon, ça va pas marcher, ça va pas suffire en fait. D'avoir juste donné les images, moi pour moi, de l'avoir vécu et de l'avoir mis en documentaire, je trouvais que ça suffisait, ça parlait à soi-même. C'est tellement aberrant, c'est tellement hallucinant. Mais en fait, non, il faut que tu cloutes le truc, il faut que tu dises, regardez, c'est hallucinant. Sinon, les gens, ils accrochent pas au truc. Et ce documentaire qui s'appelle Borders Nation Deportation, que vous pouvez regarder, qui est toujours d'actu. Et c'est encore un des trucs, c'est probablement le documentaire que j'ai fait qui a été le moins vu, quoi. Voilà. La manifestant qui monte son cul à un flic, ça fait 200 000 vues, quoi. Sérieux, c'est déprimant. Mais ça se retrouve sur plein de sujets. Et ça, c'est un des gros problèmes d'Internet, quoi. Il y a un gouffre entre ce qu'on veut montrer en tant que journaliste et ce que les gens regardent vraiment. Mais ça, j'ai l'impression que je pourrais rien y faire, quoi. Voilà.
Une dernière question. Vas-y, pour la dernière. T'auras la dernière question.
Je voulais savoir, en plus, ça fait bien parce que c'est la question. Comment vous imaginez Darius dans 10 ans ?
Oh putain, tu vas trop loin.
Ouais, voilà. Dans une échelle, peut-être dans l'année prochaine, dans 5 ans. C'est quoi ton projet pour l'avenir ?
La justice surtout le ministère de l'Intérieur réussit à m'éclater la gueule économiquement, ce qu'il est tout à fait en train de faire, et dans ce cas là il va falloir trouver une solution rapidement. Soit à un moment il y a des gens qui vont commencer à se dire que ce qu'on fait, bah, faudrait peut-être le sauvegarder. Du coup, peut-être qu'il y a des gens qui ont du pognon qui vont venir voir et dire mais on peut vous aider, nous, machin, etc. Sachant que on n'est pas non plus on n'est plus une petite start-up, machin, on a 5 ans, machin, donc c'est pas. Moi, je suis quelqu'un de très indépendant, j'ai monté une société pour être indépendant, c'est pas pour laisser mon capital à quelqu'un d'autre, quoi. Donc 5%, 10%, ouais, plus, non, donc c'est quelqu'un qui, en gros, et d'ailleurs, je le dirais exactement comme ça, si tu viens à la table du conseil d'administration, tu peux ouvrir ta gueule, mais on s'en fout. C'est comme ça. Tu, en investissant chez nous, t'acceptes qu'on fait ce qu'on veut, quoi. C'est comme ça que ça marche. Et s'il y a des gens qui sont prêts à prendre ce risque, alors bienvenue à la maison, là. Ce qui n'était pas le cas avant, mais. Voilà, on essaie de nous tuer. Aujourd'hui, mon problème, il est économique. Ça veut dire, comme je disais tout à l'heure, le contrôle judiciaire, je dois pointer une fois par semaine. Si j'ai les moyens de prendre le train et de m'amuser à faire des allers-retours en TGV tous les week-ends, ça peut marcher, quoi. Si je peux m'adapter, quoi, tu vois. Mais à un moment, ça me coûte 200 balles à chaque fois, quoi. Donc 200 balles chaque semaine, ça fait 1000 balles par mois. Ça fait 800 balles par mois. Donc à un moment, si je ne les ai pas, je ne peux pas le faire. Donc là, le problème, il devient économique. Il n'était pas avant. Et un problème économique, c'est en général plus facile à régler que tu vois, un problème logistique ou d'organisation, machin. Donc je suis pas inquiet, dans le sens où... Mais par contre, là, je suis très énervé. Donc, si on continue, je ne donnerai pas mon avis, toujours pas, désolé. Mais peut-être un jour, quand je serai vieux et que je serai borné par les grenades, et que je viendrai tous les jours sur le plateau. Mais par contre, on va lever une armée de contributeurs, je pense. Et ça, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé s'ils pouvaient fournir des photos, il y a des putains de talents, etc. Et on n'a pas le temps en ce moment de faire le tri, machin. Je pense que c'est quelque chose qu'on va faire. Il y a plein de gens dans des villes où on n'est pas, qui voudraient contribuer, donner des images, etc. Il y en a qui ont vraiment du talent, on fera un tri, on ne laissera pas le truc ouvert à tout le monde. Mais je pense que le futur, c'est... on défend justement de l'information brute, sans commentaire. Et ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas forcément besoin d'être journaliste. Donc l'ouvrir à des gens qui sont journalistes, qui veulent devenir journalistes, donc d'agrandir un petit peu notre couverture. C'est un peu le projet, quoi.
Content de la réponse.
Tu veux investir
Tu peux peut-être participer si tu veux pas investir. Bien, merci.
Merci à vous. Hein. Si y a quelqu'un qui veut garder tu peux le garder l'extrait, le morceau de grenade si tu veux. C'est cadeau.
Bien, écoutez, n'oubliez pas de répondre aux nécessités examinatoires du cours. Vous pouvez laisser des choses en ligne, bien évidemment. Hein. Vous avez jusqu'au 30, jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Voilà, je vous aurai vos notes dans la foulée, vraisemblablement. Je vous souhaite évidemment d'heureuses vacances et, comme dirait l'autre, un joyeux bordel. À bientôt.